Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Cacca in percussione, cerca l'ingresso in aria ancora, Cacca, davanti al portiere, Cacca, rete, 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 Cacca.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, gol! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci provo con il testo,
e la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 8e épisode de la 2e saison du podcast Calcio et Pépé. On est ravis de vous retrouver pour débattre une nouvelle fois de football italien. Je suis toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour monsieur Johan Crochet.
Alors Guillaume, on revient pour un podcast d'actu en ce mois de janvier, cette fin janvier. On va revenir sur tout ce qui s'est passé depuis la trêve hivernale et notre énorme podcast bilan de la mi-saison qui a duré un peu plus de 2h30 avec Stanislas Touchaud, correspondant de l'AFP à Rome, qui a en plus battu tous les records d'écoute. Et ça c'est vraiment très appréciable évidemment. On vous remercie d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et n'hésitez pas à continuer à nous encourager en partageant le podcast et en mettant évidemment les 5 étoiles sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast. Alors Guillaume, on a décidé de faire un petit peu différemment parce qu'on vient de passer un petit mois de compétition et puis comme on a fait un énorme bilan, donc de plus de 2h30 il y a à peine un mois, c'est un peu difficile de faire aussi complet que d'habitude. On a décidé de partir sur un angle à chaque fois où on va poser une question liée à un club et puis on va tenter d'y répondre avec de l'analyse et un petit peu de nos avis. On va faire ça pour les 6 clubs, on va dire principaux d'Italie, c'est-à-dire les 2 clubs milanais, les 2 clubs romains, la Juve et le Napoli. Et puis on aura un dolce un peu plus court que d'habitude puisque comme on a fait les 20 clubs il y a un mois, il n'y a pas forcément énormément de choses à dire sur tous les clubs de Serie A depuis ce podcast de bilan de mi-saison. On commence, une fois n'est pas coutume, Guillaume, par la Lazio. Et donc notre question liée à la Lazio, c'est en gros, est-ce que cette équipe de la Lazio, qui reste sur des performances incroyables, ils sont quand même à 15 matchs consécutifs sans défaite en Serie A, ils viennent de faire un partout contre la Roma dans le derby romain, mais ils restaient sur 11 victoires consécutives juste avant ça. Et la question, c'est, est-ce qu'elle peut aller lutter pour le titre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au mois de mai? Et est-ce que même la Lazio est un candidat crédible pour le titre cette saison?
Écoute, c'est une question très, très compliquée à répondre, évidemment, parce qu'on est à la moitié de la saison, qu'on commence seulement la phase retour. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est clairement au-dessus des attentes. Voilà, on rappelle que l'objectif qui est primordial pour la Lazio et qui fuit un peu ces dernières années, même parfois sur le fil, on se rappelle le match contre l'Inter à la dernière journée, c'est vraiment évidemment la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que cette année, voilà, je pense que la première chose, c'est aussi le retour des cadres. On avait déjà parlé avec toi, Johan, il y a quelques semaines. C'est évidemment voilà, alors là on reste sur un derby qui est un peu mitigé niveau prestation, mais c'est vrai que des joueurs comme Luis Alberto qui est vraiment revenu à son niveau, Milinkovic-Savic, la même chose, Immobilier quand même qui marche sur l'eau depuis le début de la saison. Voilà, c'est ce qui permet à Lazio d'être aussi haut au classement. Est-ce qu'elle peut lutter pour le titre? À l'heure actuelle, j'ai envie de te dire oui, parce qu'ils sont là et parce qu'ils ont un match en moins. Donc c'est possible. Aussi parce que l'Inter et la Juve, on a vu qu'en ce moment, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, il y a peut-être voilà, tous ces facteurs qui peuvent permettre à la Lazio d'y croire. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que, tu sais, en Italie, il y a toujours aussi un peu de superstition autour de la parole Scudetto. Et c'est vrai qu'Inzaghi, tu vois, il y a deux semaines, le studio Sky, ils lui ont demandé après un match, alors je l'ai plus dans la tête, mais il lui pose la question, mais est-ce que vous voulez et vous pensez pouvoir jouer le titre? Et qu'est-ce qui vous manquerait? Et lui, il a dit, à l'heure actuelle, il manque rien. Il manque rien parce que on gagne tous nos matchs, comme tu l'as dit, ils étaient à 12 victoires consécutives. Et oui, on y croit. Donc voilà, ils ont clairement un objectif assumé, qui est les champions au minimum. Et si après tu peux permettre de jouer plus, moi je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Niveau effectif, on en parlera. C'est sûr que quand tu compares l'effectif de la Lazio à celui de la Juve ou l'Inter, tu peux te dire qu'il est un peu moins qualitatif. Mais avec des joueurs du standing de Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Immobilier et une défense, tu vois, j'ai regardé hier, Iglitaré était interviewé avant le derby, et ils lui ont dit, mais voilà, est-ce que vous pensez pas que vous pouvez avoir un ou deux renforts en défense qui parfois pourraient paraître légères? Et Taré a dit, oui, mais moi je crois bien qu'on est la deuxième meilleure défense, et il a raison, c'est la deuxième meilleure défense du championnat et c'est la deuxième meilleure attaque derrière l'Atalanta qui est sur notre planète. Mais niveau défense et niveau attaque, c'est quand même une équipe très équilibrée, qui marque beaucoup et qui encaisse peu. Et voilà, Inzaghi a créé quand même, un petit monstre. Et si elle continue comme ça, clairement, oui, elle pourrait jouer le titre. Moi, ça peut me paraître difficile sur la longueur, mais en tout cas, pour le moment, oui, il pourrait le jouer.
Alors, il y a deux éléments peut-être aussi dont on doit prendre considération. Le premier, c'est que c'est une équipe qui est très épargnée par les blessures. Et ça, c'est pas négligeable dans une saison où tu vas te battre pour des objectifs élevés. On parle pas de la Roma parce que c'est un cas à part en Italie qui a beaucoup beaucoup de blessés, mais on voit que l'Inter a quelques blessés aussi. On a eu Sensi, on a eu Barella, on a eu Gagliardini, là on a eu Skriniar lors du dernier match contre Cagliari ce week-end. Donc il commence à y avoir quelques blessés. Du côté de la Juve, on a aussi des blessés. On a eu Demiral, Chiellini cette saison. Plus récemment, on a eu, il y a eu aussi Khedira. Là, Pjanic est sorti lors du match contre le Napoli. Donc il commence aussi à y avoir quelques blessures. Il y a eu Danilo, évidemment, De Chilio, on n'en parle même pas. Alexandro également. Donc la Juve a aussi quelques problèmes de blessures qui sont plus dans l'ordre de la normalité, on va dire, de ce que peuvent avoir un club dans une saison. Ce qui est anormal, par exemple, c'est le cas de la Roma, qui est totalement dingue. Après, la Juve et l'Inter, c'est pas anormal d'avoir des blessés à ce moment-là de la saison et d'avoir quelques blessés réguliers. Ça, c'est tout effectif professionnel à ce genre de soucis. Le truc, c'est que là, la Lazio, pour le coup, elle a très peu de blessés. Il suffit de voir Luis Alberto, Milinkovic, Immobilier, ils sont là tous les matchs. Et puis le deuxième point quand même qu'il faut, je pense, prendre en compte, c'est que la Lazio n'est plus en Coupe d'Europe.
Eh oui,
et contrairement
c'est ce que
à tous
dire,
les
ouais,
autres
ouais.
clubs, l'Inter est encore a été reversé en Europa League, la Juve est encore en Ligue des Champions et c'est un vrai objectif pour le coup. L'Atalanta est en huitième de finale de la Ligue des Champions, la Roma est qualifiée pour les 16e de finale de la Ligue des Champions. Donc tous ces concurrents pour, on va dire, à la fois la qualification en Ligue des Champions, puisque la Roma n'est pas dans le coup pour le titre. Et pour le titre, comme l'Inter et la Juve, ont encore des matchs à jouer, pour certains des ambitions. L'Inter, je suis pas persuadé que l'Europa League soit forcément un objectif très important. Mais en tout cas, voilà, ils vont être débarrassés de
et la Coupe d'Italie.
Oui,
et la Coupe d'Italie.
Il reste pas beaucoup de matchs en Coupe d'Italie vu que les demi-finales sont déjà en demi-finale, donc ça va pas rajouter 50 matchs.
Tu vois,
quoi.
C'est aller-retour. C'est aller-retour, ça peut toujours aussi être plus compliqué à gérer quand c'est qu'un match. Donc, c'est sûr que c'est un facteur important.
Mais du coup, la Juve est encore qualifiée en Coupe d'Italie. L'Inter.
Aussi.
L'Inter aussi. Et tac.
Il reste Milan. Il reste. La Roma est éliminée.
La Lazio est qualifiée. Non, c'est l'Inter qui n'est pas encore qualifiée.
La Lazio est éliminée. Ils ont été éliminés en Coupe d'Italie.
Ah oui, par Naples.
Par le Napoli.
Ouais. Oui, c'est vrai. Donc oui, ils n'ont même pas la Coupe d'Italie. Oui, ils ont même pas la Coupe d'Italie. Donc ce qui fait qu'au final.
Il reste que le championnat.
Voilà. Ouais. Et ils sont libérés de toute autre compétition. Dans un effectif qui a pas de blessés, qui va avoir un temps de jeu inférieur à tous les concurrents, évidemment que ça va compter pour le sprint final et évidemment que ça va compter pour cette fin de saison. Autre chose, tu as parlé du côté offensif avec Milinkovic, Luis Alberto, Immobilier. En fait, cette équipe de la Lazio, il y a toute cette colonne vertébrale qui est hyper importante, qui ne bouge pas, qui joue tous les matchs et qui est très compétitive. Donc il y a les trois joueurs que tu as cités dans le volet un peu plus dans la construction du jeu et à la finition. Et défensivement, t'as Strakosha évidemment dans les buts, et t'as Acerbi en défense, qui lui est vraiment en train de passer un niveau supérieur entre guillemets. Et très honnêtement, je crois que c'est avec Stanislas qu'on en parlait lors du bilan de demi-saison. Moi, je serais pas surpris de voir Acerbi à l'Euro.
Mais il est, tu peux même dire qu'il est titulaire. Hein.
Ouais.
Mais il est devenu titulaire international. Et ses derniers matchs, il était titulaire. Hein. Et ce qui est assez surprenant d'ailleurs, parce que, enfin, surprenant, pas surprenant au niveau du fait du niveau qu'il a actuellement. Moi, je pensais pas qu'il va atteindre ce niveau-là, justement. Je pensais, voilà, évidemment que ça a toujours été un bon défenseur, mais je pensais pas le voir atteindre ce niveau-là. Il s'est complètement fondu dans le collectif du Inzaghi. Et en plus, c'est un vrai leader. On l'a encore vu dans le derby hier, c'est lui qui marque, mais voilà, au-delà de ça, il dégage quand même quelque chose de voilà, une certaine leadership sur le terrain. Et comme tu dis, moi j'ai cité évidemment là les plus offensifs, que ce soit Milinkovic Savic ou Alberto Immobilier, mais derrière c'est quand même lui qui tient la baraque, c'est quand même lui le patron de la défense, et même avec Luis Felipe ils font une belle défense, mais en tout cas c'est quand même lui le vrai patron de la défense et aussi de la Lazio.
Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il a une bonne qualité de passe et pour bien démarrer le jeu, parce que allez, si je dois trouver un truc où ça peut encore s'améliorer, c'est sur la construction depuis la défense, où là je trouve qu'il y a encore quelques petites choses qui peuvent être améliorées, parce qu'au côté de Acerbi, il n'y a pas vraiment de joueurs qui ont une grande qualité technique. Lucas Leiva n'est pas un grand technicien non plus, donc c'est pour ça aussi que la Lazio est une équipe qui va très vite en contre. C'est parce qu'elle transmet très rapidement le ballon à Milinkovic-Savic et Luis Alberto, qui eux ensuite peuvent le porter un peu, effectuer les bonnes passes verticales pour Correa, pour Immobilier, etc. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, je suis en train de reprendre la statistique, ça vient de WhoScored, le site. Tu sais, il y a la fameuse stat des duos, entre guillemets, entre oui. Le passeur décisif et l'attaquant. Et en fait, il y a les combinaisons entre qui a réussi, quel duo a réussi le plus de combinaisons entre passe décisive et attaquant. Et ce qui est marrant, c'est que dans les trois, enfin dans les duos qui ont le plus réussi ça en Serie A, t'as le premier, c'est passe décisive de Luis Alberto pour Ciro Immobile. C'est arrivé 4 fois. Deuxième, c'est Ciro Immobile pour Joaquín Correa. C'est arrivé 3 fois. Troisième, c'est Luis Alberto pour Joaquín Correa. C'est arrivé aussi 3 fois. Et derrière, enfin à égalité, on a Kandreva Lukaku, Gomez Muriel, Gomez Ilicic. Mais c'est pour dire que voilà, c'est des joueurs qui sont habitués à jouer ensemble, qui se cherchent très naturellement, qui se trouvent très naturellement. Il n'y a rien de forcé, c'est très fluide. Et ça revient à ce qu'on disait aussi dans le podcast de mi-bilan, c'est que cette équipe-là, ces joueurs-là jouent ensemble depuis au moins 3 saisons. Et le fait que la Lazio n'ait pas eu besoin de vendre, comme c'était le cas auparavant, ou qu'elle ait fait les efforts financiers pour garder ces éléments-là qui étaient parfois courtisés comme Milinkovic-Savic, ça leur permet aujourd'hui de pouvoir enfin, plus qu'espérer maintenant, parce qu'ils y sont quasiment, on va dire, quasiment, enfin pas quasiment certains, mais ils ont une très grande possibilité d'accéder à la Ligue des Champions la saison prochaine, au-delà de ce qu'on est en train de dire sur la possibilité de gagner un titre ou pas. Dernière chose, c'est quand même l'enthousiasme qui est aussi retrouvé. Tu sais, quand tout va mal, on reparle beaucoup des supporters et de l'Otito, la relation qui est difficile. Et puis là, bizarrement, c'est
d'ailleurs, il doit jubiler quand même, hein, l'Otito, dans son coin. On l'entend plus beaucoup, il va quand même être très... Voilà, il doit être content de... Bah, après, taré, évidemment, il est pour beaucoup avec l'effectif qui avait à disposition d'Inzaghi, mais l'Otito, voilà, mis à part aussi les problèmes qu'il a aussi avec son deuxième club, la Salernitana, mais c'est vrai que de son côté, il va être quand même voilà, pas mal satisfait de jouer le titre quand même avec l'Inter et la Juve.
Et puis quelque part, c'est aussi un peu sa victoire, ce que je viens d'expliquer sur Milinkovic-Savic qui est resté, parce que très honnêtement, alors après, est-ce qu'il y a eu de l'intox sur les offres reçues, ça c'est aussi fort possible, mais sur une offre à même, si on prend une fourchette basse, 70 ou 80 millions d'euros, beaucoup de clubs se seraient dit, bah on va le vendre, ça va nous permettre de réinvestir sur deux ou trois joueurs, d'améliorer un peu la compétitivité globale à plusieurs postes dans cette équipe. Et non, lui, s'est appuyé sur Milinkovic-Savic, qui en fait une très forte individualité dans cette équipe de la Lazio. Et maintenant, il en tire aussi un peu tous les bénéfices. Avant, sans doute, enfin, ça peut être aussi la dernière saison de ce trio-là où ils sont tous ensemble, etc. C'est pas sûr que ça reste encore de longs mois en place du côté de la Lazio. On passe à la Roma, Guillaume. Alors, la petite question. Alors, la Roma, c'est difficile parce que la question principal, Guillaume, ce qu'on s'est appelé avant de préparer l'émission, le podcast, c'est quand même, on s'est dit, bon, les blessures. Mais le problème, c'est que on en parle de façon très régulière. Donc
c'est le fil rouge.
Ouais,
c'est
voilà.
Comme Interville, hein, c'est le fil rouge de la saison de Calcio et Pepe, c'est les blessures de la Roma.
Exactement, donc on va pas refaire un focus là-dessus, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, de nouvelles blessures depuis l'épisode de demi-saison avec encore des joueurs qui sont blessés pour longtemps, Zaniolo notamment.
Le dernier en date, Diawara. Hein,
ouais, exactement. Plus, ouais. Normalement, dans les prochaines heures, d'ailleurs, il y aura la décision entre l'opération ou pas opération, ce qui peut changer pas mal de choses. En gros, c'est sans opération avec le fait de se soigner autrement, c'est un mois et demi d'absence. L'opération, c'est 2 à 3 mois. Donc,
Diawara qui était très bon d'ailleurs. Hein,
Diawara qui est très bon, ouais. Avec le duo Diawara-Veretout qui marche très bien à la Roma. Donc on s'est dit on va faire autre chose et moi c'est vrai que j'ai une interrogation depuis pas mal de temps sur Dzeko. Alors la question elle va être tournée autour de que faut-il faire de Dzeko ou que faut-il faire avec Dzeko, c'est un peu différent. On va commencer par rappeler la situation contractuelle du joueur, il a prolongé jusqu'en 2021 l'été dernier alors qu'il était tout proche de partir à l'Inter. Petit point statistique qui va me permettre d'étayer un peu mes propos. Depuis son arrivée à la Roma en Serie A, il a 0,45 buts par match en moyenne, donc ce qui est pas mal, mais c'est pas la fourchette haute non plus des meilleurs joueurs de Serie A. Et donc parce que tu sais, il y a le côté l'analyse à chaud, et puis après c'est bien aussi de se confronter à des stats un peu plus froids, tu vois, mathématiques.
Bah évidemment, parce qu'il a marqué hier, il a marqué parce qu'on enregistre le lundi.
Ouais.
Du coup, le lendemain du derby, il a marqué hier. Donc, c'est sûr que l'analyse pourrait être biaisée, mais nous, on s'est appelé. Alors, on va spoiler un peu. On s'est appelé le samedi. Et là, du coup, évidemment, pas marqué encore dans le derby. Mais voilà, faut prendre une analyse quand même plus à froid et analyser, comme tu l'as dit, dans sa globalité. Les stats de Dzeko.
Exactement. Et donc, du coup, j'ai regardé un peu si mon impression était bonne, entre guillemets. Et donc, en fait, cette saison, la Roma est la seule équipe du top 7 à sous-performer en attaque entre sa production, donc, qu'on peut retrouver avec la stat des expected goals, et la réalisation, qui sont donc, qui peut être matérialisée par les buts marqués. La Roma a marqué 5 buts de moins que ce qui était, entre guillemets, attendu avec les expected goals, et Dzeko est dans le négatif de 3 unités aussi. En fait, Dzeko, son problème, c'est que c'est un joueur à pile ou face, et je suis pas sûr qu'on puisse avoir une réponse très cadrée et très définitive sur la question. Le côté pile de Dzeko, c'est son importance dans l'élaboration du jeu de la Roma. C'est clairement un des numéros 9 les plus techniques en circulation. Dans ce rôle de 9, 9,5, parfois même numéro 10 pour orienter le jeu. En Europe, t'as un joueur comme Roberto Firmino à Liverpool qui est très très bon dans ce jeu court aussi et dans le fait de jouer avec des partenaires. Mais Dzeko est un des meilleurs attaquants à ce niveau-là. Il peut jouer dos au but, il peut faire jouer les autres, il oriente très bien le jeu, je viens d'en parler. Et il marque aussi des buts, parce que c'est quand même aussi la base d'un attaquant.
Hier, on va dire qu'hier, dans le derby, on l'a plus vu côté pile.
Exactement.
Et l'élaboration du jeu et but marqué, alors même si Strakosha part
l'a bien aidé.
Un peu à l'aventure, voilà, mais c'est vrai qu'hier, même dans le jeu, on a beaucoup vu le Dzeko côté pile.
Eh bien, moi j'ai l'impression qu'on a toujours le côté pile et le côté face. Le côté pile, c'est l'élaboration du jeu, ça c'est très bien. Et côté face, c'est qu'il rate beaucoup d'occasions faciles. Moi je trouve qu'il y a un vrai manque de. Alors je sais pas si c'est de lucidité ou de qualité en fait, du coup, parce que quand ça dure sur plusieurs saisons, c'est un peu difficile de parler de simplement de lucidité. Il est clairement pas un attaquant tueur de la famille des, par exemple, des Immobilés, ou de la famille des Duván Zapata, qui a été beaucoup blessé cette saison, mais qui a un ratio de buts par match qui est assez dingue. Pour reprendre juste les exemples, ou même d'un Cavani, par exemple, quand il était à Naples, pour reprendre la, ou d'un Higuain à la Juve et à Naples, voilà, pour reprendre une catégorie d'attaquants plus tueurs, entre guillemets, et moins utiles dans le jeu. Et en fait, cette équipe de la Roma, le problème, c'est qu'elle a aussi un trio. Alors, la Roma joue en 4-2-3-1, et derrière Dzeko est alimenté par un trio de joueurs. Le vrai problème, c'est qu'on en revient au lien avec les blessures, c'est que c'est jamais le même trio. Que tous les membres de ce trio-là ont été blessés pendant longtemps. Si tu les prends tous, regarde, tu prends Perotti, il a été blessé 2 mois et demi en tout début de saison. Mkhitaryan, il a été blessé 2 mois à l'automne, et là, il est encore à nouveau blessé. Et minimum 1 mois, donc là, ça fait déjà une dizaine de jours, donc il va durer ça encore au moins. Allez, même si on est positif, au moins 1 semaine, 10 jours encore d'absence. De l'autre côté, tu prends Zaniolo, il vient de se faire les croisés. Tu prends Cengiz Under, il était absent combien? 2 mois au moins aussi, Cengiz,
en début de saison.
Blessé avec la Turquie au rassemblement. Tu prends le poste de numéro 10 maintenant, Pellegrini, absent 1 mois et demi à l'automne. C'était une blessure, je me demande si c'était pas Lecce d'ailleurs qui s'était blessé.
Si, avec Mkhitaryan d'ailleurs. Même
exactement,
temps, blessure,
ouais. Voilà, c'est ça. Et Pastore qui a été blessé, lui, pas loin de 2 mois aussi, je pense.
Depuis que j'ai fait un papier sur lui.
Depuis que tu l'as guigné, voilà, on peut dire ça comme ça. Et j'ai oublié le septième homme, c'est Justin Kluivert qui peut jouer des deux côtés, qui a lui aussi été absent 1 mois et demi, 2 mois. Donc en fait, c'est difficile pour ces joueurs-là, parce qu'en fait, concrètement, donc ils jouent un peu, ils se blessent. Ensuite, il faut revenir en forme parce que c'est des blessures de minimum 2 mois à chaque fois. Donc, il faut au moins 2 ou 3 matchs pour revenir en forme. Donc, c'est difficile de faire des stats aussi pendant ce temps-là. Parce qu'en fait, quand tu as un numéro 9 comme ça, entre guillemets atypique, ça peut aussi donner beaucoup plus de responsabilité à tes ailiers et à ton numéro 10 derrière. C'est-à-dire qu'il fait jouer les autres et les autres peuvent prendre les espaces, profiter des déviations de Dzeko, profiter de son jeu de corps, de ses appels, etc., de ses décrochages pour s'engouffrer dans la brèche. Et donc,
est-ce qu'on peut dire qu'il a un côté un peu, alors peut-être que la comparaison est un peu exagérée, mais tu vois, un côté un peu Ibrahimovic, dans le sens où
le Ibra la première version de Milan.
Il s'est aussi cristallisé, tu vois, les attentions. Et par exemple, quand Ibra a fait marquer 11 buts à Chirino, tu vois, c'est un peu dans ce que tu dis, c'est un peu l'optique de les milieux prennent la profondeur, on plonge dans la surface parce qu'on profite de la stature et de ses déviations, tout simplement en pivot ou voilà, simplement par une petite passe.
Voilà, c'est un peu le même genre. C'est une bonne comparaison. Sauf que le problème, c'est qu'à Milan, quand ça joue en 4-3-3 et qu'Ibra en pointe, les relayeurs comme Nocerino prenaient beaucoup les espaces. Le problème, c'est qu'à la Roma, Diawara et Veretout sont pas
C'est pas leur qualité principale.
Voilà, c'est pas leur qualité principale, entre guillemets. Donc, ça doit venir de la ligne de 3 derrière. Et le problème, c'est qu'entre les blessures, faut que je revienne en forme, là, je peux pas jouer, c'est très compliqué. Et donc, du coup, on est dans une situation où, ta ligne de 3 offensifs, est pas hyper décisive en termes de buts marqués. De mémoire, il doit y avoir Kluivert à 3 buts. Cengiz doit être aussi à 3 buts. Mais c'est pas énorme, quoi. Perotti doit être à 3 buts, mais c'est des pénaltys, essentiellement. Et Dzeko qui est à 9 buts. Le problème, c'est que quand t'es vachement dépendant d'un système de jeu où ton attaquant a un rôle très précis et qui doit favoriser aussi le jeu des autres, si le lien il est cassé, ton attaquant qui est censé faire jouer les autres, du coup, il fait jouer un peu personne. Et la difficulté, c'est que parfois, tu te dis, est-ce qu'il vaudrait pas mieux d'avoir un attaquant comme Immobilier, où, ok, c'est beaucoup plus limité dans le jeu, dans la construction, il fera pas jouer les autres, c'est un peu plus compliqué. Techniquement, il est évidemment pas au niveau de Dzeko. Par contre, lui, il va avoir une occasion dans la surface, il va te la mettre. Dzeko, il est très très loin de ça. Alors du coup, la question qui se pose derrière, c'est pas pour cette saison, parce qu'on sait comment c'est, et ça sera Dzeko numéro 1 et Kalinic qui sert pas à grand chose et qui est un peu fantomatique en numéro 2. Qu'est-ce qu'il faut faire la saison prochaine? Est-ce qu'il faut mettre un concurrent un peu plus sérieux que Kalinic, c'est-à-dire un joueur un peu en forme déjà, dans les pattes de Dzeko, c'est-à-dire on garde la hiérarchie Dzeko en numéro 1, mais on prend un mec en numéro 2 qui est un vrai backup d'un meilleur niveau et avec un potentiel important. Est-ce que ce numéro 2 doit être du même gabarit prototype que Dzeko, c'est-à-dire un attaquant qui fait jouer les autres, ou est-ce que ça doit être, bah non, du coup, un mec un peu plus tueur, au risque de dénaturer un peu ton jeu que t'essayes d'élaborer depuis le départ, ou est-ce que tu dis, bah Dzeko, on a vu aussi ses limites, donc on lui met un numéro 1 bis dans les pattes, et ça va se décider à la performance, aux entraînements, etc. Et là, c'est la même chose. Quel type d'attaquant tu vas l'acheter?
Et on rappelle qu'il y aura 34 ans en mars prochain.
Ouais, exactement.
Qui est aussi une donnée à prendre. Et ça fait combien de temps qu'il arrive à la Roma?
Ça doit être sa cinquième saison, si je dis pas de bêtises.
Ouais, ça commence à faire. Donc, après, c'est la grande question. Vu que Fonseca quand même réalise une première bonne saison, on est d'accord quand même qu'il devrait, voilà, si tout se passe bien, il devrait rester dans cette optique du 4-2-3-1. Est-ce que toi, par exemple, tu penses que, je sais pas, un changement de système ou ça pourrait changer peut-être le compteur but de Dzeko? C'est vraiment une question de... Moi, je vois ce que tu veux dire parce que t'es tueur dans le sens où tu vois en Italie, on dirait qu'il lui manque un peu de cattiveria près du but. Tu vois, il lui manque vraiment ce côté, je mets une grosse frappe.
Parfois, limite, un peu de détermination.
Exactement. Et c'est vrai qu'il manque d'agressivité, clairement, quand il est face au but. Moi, j'apprécie beaucoup le côté pile que t'as dit, voilà, ce côté pivot et ce côté... c'est vrai que techniquement parlant et quand je vais dos au but, c'est l'un des meilleurs attaquants en circulation. Mais c'est un beau joueur, mais ça doit être aussi un buteur. Et un buteur, il est là pour marquer des buts. Et le problème, c'est que tu as dit tout à l'heure, je crois que c'est 0,45, tu m'as dit, but par match depuis son arrivée. Alors, c'est pas catastrophique, mais c'est pas énorme non plus.
Le bilan de ces 5 saisons, la première saison, elle était catastrophique, il a mis 8 buts. La deuxième était exceptionnelle, il a mis 29 buts. La troisième, 16 buts. La dernière, 9 buts. Et là, il est à 9 buts. Donc, tu vois, c'est pas dingue, quoi.
C'est un bon attaquant, un bel attaquant à voir dans plusieurs phases de jeu. Mais c'est vrai que peut-être qu'il a passé combien de fois, du coup, la barre des 20 buts? Une fois?
Une seule fois, ouais.
Une seule fois, ouais. Ouais, c'est quand même pas... Quand tu vois qu'Immobilier, il y en a, je crois, sa troisième saison consécutive au-dessus de la barre des 20 buts. Je pense que ça montre aussi la différence.
Prisonnier de je pense que Fonseca est un peu prisonnier, enfin, ou va être prisonnier dans les prochains mois de son système. C'est-à-dire que Dzeko va bien dans son système, dans ce qu'il veut mettre en place, notamment avec les ailiers qui se réaxent pour combiner avec lui et avec le numéro 10. Si tu veux continuer sur cette optique-là, c'est difficile de ne pas garder Dzeko et c'est difficile de ne pas penser à prendre un remplaçant qui a un peu les mêmes caractéristiques de Dzeko. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais ça va forcément aller dans ce sens-là. Après, à voir ce que donnera la fin de saison, s'ils sont qualifiés en Ligue des Champions ou pas, ce qui donne un peu plus de moyens. On sait qu'il y a le rachat du club qui risque de tomber aussi courant février, donc ça peut aussi ouvrir pas mal de perspectives. Donc voilà, on verra, mais il y a une vraie interrogation sur Dzeko, pas tant sur son rôle, mais sur son utilité réelle dans le secteur offensif à l'heure actuelle, qui est pour moi c'est insuffisant en fait ce qu'il fait aujourd'hui. Je dis pas que c'est pas un bon joueur, que c'est pas un grand joueur, joueur, mais aujourd'hui la Roma a besoin de plus de Dzeko et surtout elle a besoin de beaucoup plus de buts de Dzeko parce que les blessures continuent et forcément ça va beaucoup reposer sur lui. Dernière petite précision, tiens, j'en profite, ça a rien à voir avec le débat, mais je me suis fait encore l'observation hier, je préfère infiniment quand il y a Justin Kluivert sur le terrain. Alors, c'est pas une question de Kluivert ou pas, mais c'est une question de profil, d'avoir un ailier qui prend un peu plus la profondeur que quand il y a Perotti ou Mkhitaryan à gauche ou Zaniolo et Cengiz Under à droite qui, du coup, se réaxent beaucoup et viennent très à l'intérieur du jeu. Et parfois, le jeu en est un peu stérile face à des défenses très compactes et j'aime beaucoup le...
Et un petit mot sur Cengiz. Ouais. Tu as pensé quoi dans le derby?
C'est marrant parce que tu vois, j'ai eu un... Je le fais rapide parce qu'on va pas passer deux heures là-dessus. Quand il y a eu, tu sais, l'échange avorté Politano-Spinazzola sur Twitter, j'avais mis un truc du genre... C'était dommage pour les deux joueurs, en gros. Et puis, j'ai mis bon courage à l'Inter pour récupérer Politano, parce que lui, c'est un joueur de qui a fait sa formation à la Roma, qui est amoureux de la Roma, qui rêvait de jouer à la Roma. Et donc, lui,
il est arrivé à Rome.
Voilà, lui, il est arrivé tout sourire, pendant que Spinazzola arrivait en faisant la gueule, d'ailleurs, à l'Inter, parce que lui, il avait pas trop envie de partir. Et j'ai mis un commentaire comme ça. Il y a un supporter de l'Inter qui m'a répondu bon courage à la Roma aussi, qui a besoin d'un milieu de terrain offensif. L'avis peut s'entendre. Moi, très sincèrement, je suis pas du même avis. Je considère que il y a d'autres postes à renforcer, et notamment au milieu de terrain dans le double pivot de la Roma, parce qu'avec la blessure de Diawara, t'as plus que deux joueurs, dont Cristante qui pour moi n'est pas un joueur de double pivot. Plutôt que de jouer les postes offensifs, ou même si t'as des blessés, t'as quand même pour trois postes, t'as quand même sans Agnolo, t'as six éléments. Donc ça fait quand même des postes doublés, plus le petit Antonucci, mais qui devrait partir en prêt. Donc t'avais quand même la quantité et un peu de qualité. Et je lui avais répondu, je lui ai dit, moi mon avis, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin à ce poste-là. Et je dis, il vaudrait mieux passer plus de temps et d'énergie à essayer de récupérer Cengiz Under, plutôt que d'essayer de recruter quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, la problématique, c'était que Cengiz ne répondait pas trop aux attentes de Fonseca, et donc Fonseca perdait un peu patience avec Cengiz, et donc fallait aussi recruter quelqu'un pour ça. Et écoute, je suis ravi de son match, parce que pour moi, Cengiz a un talent dingue. C'est peut-être pas le joueur le plus professionnel, c'est peut-être pas le joueur le plus attentif à tout ce qu'il faut faire pour être un joueur professionnel. Je pense que c'est vraiment là-dessus que la Roma doit mettre beaucoup d'énergie pour lui faire comprendre ça, pour lui faire intégrer ce que c'est que d'être un joueur professionnel, que c'est pas possible d'arriver avec 4 kilos de trop au retour des vacances, que c'est pas possible d'être en surpoids continuel, etc., de trop manger, etc., et de pas être assez impliqué dans le travail défensif. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, parce que c'est un joueur qui est très talentueux, qui, en plus, est capable de te faire des différences individuelles. Il n'y a pas tant de joueurs que ça aujourd'hui dans l'effectif de la Roma qui, sur un dribble, un crochet, une accélération, parce qu'il a un peu
tout. Il en a fait hier.
Voilà, il a un peu tout ce joueur, tu vois. Il est rapide, il est technique, il a une grosse frappe de balle. Donc c'est un joueur un peu unique là-dessus, sur ce paramètre-là. Et donc, je pense qu'il faudrait passer beaucoup plus de temps et d'énergie à essayer de remettre Cengiz en selle plutôt que de recruter quelqu'un. Donc voilà, je suis ravi de son match, parce qu'il a été très bon. Très honnêtement, je trouve que c'est sans doute l'un de ses meilleurs matchs depuis très longtemps. À voir la suite s'il parvient à maintenir ce niveau d'exigence et de performance. Mais la Roma ira aussi en Ligue des Champions si Cengiz se réveille un peu, clairement.
Ben, je suis d'accord parce que hier, parce qu'on est lundi et le derby était dimanche, mais c'est vrai que je l'ai trouvé vraiment très bon, d'ailleurs, sur le penalty après annulé par la VAR. C'est encore lui qui drive sur le côté à un joueur de la Lazio. Non, c'est vrai, il a fait vraiment un super match. Et là, en Coupe d'Italie, hein, il marque un joli but contre la Juve, une grosse frappe sèche dans la surface. Donc, je reste d'accord avec toi, plutôt que de penser à recruter tout de suite pour combler la blessure de Zaniolo qui va rester loin et loin éteint pendant assez longtemps. Voilà, que la Roma se concentre plus sur les joueurs qu'elle a, plutôt que d'empiler les joueurs un par un, et à la fin, quand ils vont tous être apte. Alors, est-ce que ça arrivera un jour, c'est ma question, parce que les blessures à la Roma, c'est tout un concept. Mais en tout cas, voilà, plutôt que d'empiler les joueurs, il y a quand même du talent, comme tu l'as dit, sur Kluivert, sur Cengiz Under, Pellegrini en numéro 10, il y a Pastore qui est toujours là. La Roma a quand même un effectif assez plein devant. Alors, il y a beaucoup de blessures, mais voilà, je vois encore qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur plusieurs milieux offensifs.
Bah, quand apparemment, je vois le match Vas-y, je te laisse finir.
Non, en plus, Cengiz Under est envoyé à Milan, hein, tu l'as vu avec un échange avec Suso. Quand je vois le match de Under hier, je me dis que pour le moment, en ce moment, entre Suso et Cengiz Under, il y en a quand même un qui est meilleur que l'autre. Donc, voilà, que la Roma se concentre, comme tu l'as dit, sur récupérer le Turc.
Bon, après, peut-être que quand vous écouterez ce podcast, la nouvelle, il y aura un nouveau joueur dans l'effectif de la Roma, parce qu'apparemment, c'est Perez du Barça qui devrait arriver. Un jeune ailier, du coup, gaucher, visiblement, d'après ce que j'ai compris. Je ne connais pas du tout.
Qui est marqué contre l'Inter, en Ligue des Champions, d'ailleurs.
Ouais, et qui doit arriver en prêt avec obligation d'achat, quelque chose comme ça, aux alentours des 15 millions d'euros. Donc, c'est pas un petit montant non plus. On passe à l'Inter. Tiens, tu en parlais, qui avait pris un but de ce jeune Perez.
Ouais.
Alors, l'Inter, c'est marrant parce que hier, en voyant le match contre Cagliari, on s'est dit « Ah !» Si la Juve gagne ce soir, ça va faire quand même 6 points d'écart. Et 6 points à rattraper, ça fait quand même beaucoup, parce que ça veut dire 2 faux pas de la Juve et 2 que tu dois transformer juste derrière.
Plus, je te coupe, le match aller à San Siro gagné par la Juve et le match retour du coup au Stadium.
Donc, exactement.
Ça aurait été compliqué.
Et en fait, l'Inter n'a pas passé un si mauvais week-end que ça, puisque la Juve a perdu sur la pelouse du Napoli. Alors du côté de l'Inter, on a fait un énorme focus dans le bilan mi-saison, donc on a décidé de se pencher un peu sur ce qui fait l'actualité aussi du club en ce moment, et c'est le mercato d'hiver. Alors la question, elle est un peu difficile à formuler, mais en gros, c'est ce mercato agité, parce qu'il devrait y avoir quand même 4 ou 5 arrivées. Est-ce que c'est déjà la preuve que Conte a réussi à convaincre ses dirigeants que c'était tout à fait possible de viser le titre dès cette saison et de détrôner la Juve, Guillaume?
Ce qui est certain, c'est que Conte y croit, Marotta aussi, les joueurs de même et les tifosi encore plus après le faux pas de la Juve hier. Et il y a un élément tout simple qui va dans ce sens, c'est que Eriksen, qui est arrivé ce lundi à Milan pour signer à l'Inter, arrive dès janvier. On rappelle que c'est un joueur en fin de contrat, qu'il aurait pu débarquer gratuitement, on va dire au niveau indemnité de transfert, gratuitement en juin prochain à la fin de son contrat à Tottenham. Mais non, l'Inter a voulu, après de longues négociations qui nous ont tenus en haleine, nous et l'Italie entière, les émissions de Mercato avec, ils ont quand même dépensé 20 millions avec quelques bonus, donc c'est quand même une certaine somme. Donc rien que ça te prouve que l'Inter veut augmenter sa qualité au milieu dès aujourd'hui parce que elle croit au titre. La Juve n'est quand même pas dans sa meilleure forme, on voit quand même sur une saison avec des hauts et des bas, donc clairement l'Inter y croit. Et voilà, je pense que l'arrivée d'Eriksen dès janvier, même s'il y a un petit sacrifice économique avec, va dans ce sens là Après, on va voir l'attaquant qui va arriver. Ce sera probablement Llorente ou Giroud. Je pense plus que ce sera le Français. Ça vient aussi renforcer l'attaque parce qu'on voit que Sanchez aussi a un peu de mal à revenir. Des joueurs comme Moses, comme Young, qui a fait sa première passe décisive hier, vont dans ce sens-là. Donc,
justement, Guillaume, ces arrivées-là, tu parlais de Giroud, Moses et Young, c'est vraiment la preuve aussi que c'est sur du court terme.
Évidemment.
Parce que Moses, c'est un prêt. Young, c'est un contrat de 6 mois avec une option supplémentaire. Et Giroud a 33 ans.
Clairement.
Donc on n'est pas sur la construction de quelque chose pour voir le titre l'année prochaine. Non, non. C'est maintenant que ça se passe. Moses, il est là pour 6 mois. Young, il est là pour 6 mois, voire 18 mois. Mais c'est maintenant qu'il va être titulaire. D'ailleurs, on l'a vu, il est arrivé depuis même pas une semaine. Premier match, première titularisation. Et première passe décisive, en l'occurrence. Mais voilà, ça accrédite à la fois la grosse arrivée que tu anticipes par rapport au mois de juin. C'est-à-dire en payant une très belle somme quand même pour le recruter, et aussi les recrues à très court terme qui vont dans cette optique de on y croit, le titre, on peut tout à fait le remporter cette année, et à la fois parce que l'Inter est performant, Guillaume, mais comme tu l'as précisé juste avant aussi, c'est parce que la Juve n'a que 2 défaites, donc c'est pas non plus une saison catastrophique, mais en fait, on y reviendra après, mais... Le match à Naples a intensifié les interrogations et les questions qu'on se pose sur cette équipe à plein de niveaux. Et donc ça aussi, l'Inter le voit. Et en fait, l'Inter, le truc, c'est qu'ils auraient très bien pu continuer avec le même effectif jusqu'en juin. En se disant, on va se qualifier tranquille pour la C1. On va être dans les 4 premiers, c'est sûr. Au pire, on sera 3e. Au mieux, on sera 2e. Si ça tourne bien, la Juve s'écroule, allez, on sera 1er. Mais on va pas injecter d'argent tout de suite. Et on lance les grandes manœuvres en juin. Non, là, il les lance dès maintenant avec Eriksen et en ajoutant de la profondeur de banc, entre guillemets, dans cette équipe. Le titre est possible dès cette année et on élargit un maximum notre effectif pour répondre aux objectifs de Conte.
Comme tu l'as dit, on est sur du court terme, notamment au vu de l'âge des joueurs qui arrivent. Alors, Eriksen mis de côté, que ce soit Young, Moses ou Giroud, Llorente. Mais tu vois, tu parlais du stade de la Juve hier. Je pense que l'Inter, on l'a vu face à Cagliari à la fin du match, qui était quand même assez houleuse. Ils ont eu peur, je pense, d'avoir perdu le titre en 3 matchs. Ils en sont à 3 nuls de suite. Et je pense vraiment qu'ils se sont dit, avec le nul contre Cagliari, si on gagne pas aujourd'hui, ça va être compliqué. Et finalement, avec le nul de la Juve. Tu vois, tu te rappelles de la phrase de Sarri qui avait dit on avait perdu le match à l'époque où tu étais à Naples, on avait perdu le titre avant un Fiorentina-Naples.
Oui,
La Juve avait gagné
c'est
contre
vrai.
l'Inter 3-2 et Sarri avait dit on avait perdu le titre à l'hôtel, hein, parce que la Juve avait renversé l'Inter le vendredi soir ou le samedi soir, je sais plus. Et tu vois, hier, comme tu l'as dit, je pense que les joueurs de l'Inter ont dit bon bah voilà, on va viser avec des champions en priorité. Et finalement, ils ont grappillé un point, plutôt d'en avoir perdu deux. Donc, ce qui change quasiment tout, parce qu'ils ont plus que 3 points de retard au lieu de 6. Ils en ont gagné un. Et voilà, l'arrivée d'Eriksen, je pense aussi, va donner un second souffle parce que c'est quand même un joueur de classe mondiale. Et alors, certes, le recruter à 20 millions, à 6 mois, la fin de son contrat, ça a un coût, mais c'est un joueur quand même qui vaut beaucoup plus s'il avait un contrat plus long. Mais voilà, je pense que ce que tu as dit sur les arrivées des trois autres et celle d'Eriksen qui arrive quand même 6 mois avant la fin de ce contrat pour une certaine somme, ça va clairement dans le sens où l'Inter se dit, c'est pas cette année ou jamais, mais cette année on peut le faire. Après, moi j'ai envie de te poser une autre question, c'est qu'est-ce qui se passe si l'Inter n'y arrive pas? Alors tu vas me dire, mais de toute façon ce serait tout bénef s'il le gagne parce que c'est peut-être pas la priorité de cette saison. Mais Conte, quand j'ai eu sa conférence de presse, alors c'était samedi, tu vois, quand il dit oui, bon, bah, on ne recrute pas les joueurs du Real Madrid, les titulaires. Alors, je ne sais pas si ça dans le sens où il veut se dire, bah, dans tous les cas, si on gagne le titre, tout le monde voudra m'adouber en disant, bah, il a fait un miracle avec les joueurs qu'il avait. Ou alors, s'il se prépare déjà à se dédouaner, tu vois, en disant, bon, bah, si on ne gagne pas le titre, c'est parce qu'on avait des joueurs quand même qui n'étaient pas au niveau de ceux de la Juve et parce qu'on n'a pas recruté des top players. Eriksen mis de côté. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que Conte a encore des excuses si l'Inter, qui a 3 points de la Juve, ne gagne pas le titre?
Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est que, alors, a toujours l'excuse, pardon, du fait que la Juve reste sur 8 trophées consécutifs, qu'elle archi-domine le championnat et que son effectif est plus fort, plus profond en termes
Fourni,
de,
ouais.
voilà, plus fourni
Il y a deux
que
effectifs
celui
en
de
un.
l'Inter. Donc, là-dessus, il aura toujours cette excuse-là. La deuxième chose, c'est qu'on touche là une chose que je déteste chez Conte. C'est le fait de toujours trouver des excuses quand il n'a pas le résultat souhaité. Alors c'est le résultat à court terme ou à long terme. Deuxième chose, c'est le fait de pleurnicher sans arrêt devant la caméra sur. Bah, ça revient un peu aux excuses, hein, mais c'est vraiment théâtral, quoi. C'est les arbitres, c'est les dirigeants qui font pas ce qu'il faut. Il y a toujours un truc qui va pas, mais c'est jamais lui qui se remet en cause ou qui se dit que si son équipe est sur les rotules dès le mois de janvier, c'est un peu compliqué et qu'il faudrait peut-être chercher d'autres moyens de mettre en place son jeu sur certains matchs et peut-être de la jouer un peu à l'économie sur certaines périodes ou de plus utiliser des joueurs qu'il a fait venir pour 20 millions d'euros comme Lazaro, par exemple, qui a très peu joué au final alors qu'il aurait pu aussi plus jouer. Où il aurait pu lancer un peu plus de jeunes. Le petit Di Marco sur le côté gauche, perso, j'avais bien aimé ce qu'il avait fait
Oui,
à
moi aussi.
Parme.
Ouais.
Voilà, il aurait pu peut-être jouer un peu plus et laisser un peu plus au repos Biraghi, par exemple, hein, c'est une piste. Borja Valero, il a vraiment fallu qu'il y ait une cascade de blessures pour qu'il le relance, alors qu'il aurait très bien pu faire déjà quelques matchs en début de saison, et on voit d'ailleurs qu'il a encore un très bon niveau, Borja Valero. Donc voilà, donc est-ce qu'il aura des excuses? Oui, parce que de toute façon, c'est sa nature de se trouver des excuses. Autant j'aime beaucoup le tacticien, et notamment ce qu'il arrive à mettre en place en très peu de temps. C'est peut-être un des entraîneurs au monde qui réussit à faire le mieux ce genre de choses.
Et Dieu sait qu'on l'apprécie. Hein.
Autant
Ça
la
reste un
per...
des meilleurs du monde. Hein.
Voilà, autant le côté Schwinner m'insupporte au plus haut point. Donc voilà, et ce qui va se passer après en termes sportifs, entre guillemets, bah, même s'il le gagne pas, les options à court terme vont devenir des solutions de remplacement. De toute façon, Moses repartira a priori.
S'il reste, ouais.
Young, si son option est activée, ça deviendra sans doute un remplaçant. Giroud sera, quoi qu'il arrive, un remplaçant. Et donc après, ils vont sans doute chercher deux ou trois top players, un par ligne, pour renforcer l'effectif et repartir pour cette fois l'objectif Scudetto, qui n'était pas l'objectif. Je pourrais dire que c'est pas l'objectif de la saison, mais on est tous d'accord pour dire qu'au départ, l'Inter joue plus la deuxième place, que la première avec la Juve.
Ouais, d'accord, pour dire que c'est un petit miracle qu'il soit là, de faire autant de points.
Exactement.
À la mi-saison, évidemment. Hein, on...
Sachant qu'il a tout changé, en fait, c'est ça le truc. C'est que l'Inter a vraiment totalement changé entre ce qu'elle faisait avec Spalletti et ce qu'elle fait avec Conte.
Évidemment.
C'est vraiment un changement radical.
Et moi, je me souviens toujours de cette conférence de presse de Conte il y a quelques mois, je crois que c'était après un match des champions, où il disait, ou alors c'était après un match contre la Juve, d'ailleurs, où il disait que voilà, la Juve est un gratte-ciel et que bah, l'Inter est un immeuble en construction et que pour arriver au niveau du gratte-ciel, il fallait encore, comme on dit en Italie, tasselle dopo tasselle, ça veut dire pièce après pièce. Donc voilà, tu vois, il met Young, il met Moses, il met Giroud, il met Eriksen qui est quand même une grosse pièce.
Lui, c'est une grosse pièce et
voilà.
C'est un joueur totalement compatible. Hein. C'est
exactement.
Un joueur qui court beaucoup avec beaucoup d'activité, qui en plus est décisif sur les coups francs, ce que n'avait pas forcément l'Inter actuellement.
Et petit à petit, voilà, il met sa pierre à l'édifice pour arriver, je pense, à avoir quand même un effectif plus pléthorique qu'il a connu à son arrivée. Donc voilà, évidemment que le fait que l'Inter soit, comme je l'ai dit, c'est un petit miracle. Mais voilà, le fait que Marotta parvienne à prendre Eriksen dès le mois de janvier, ça offre quand même une arme en plus pour l'Inter, pour le Scudetto. Et je te dis, cette journée d'hier, toi comme moi, on le sait, il y a des journées quand même comme ça où tu te rappelles souvent à la fin de la saison, tu te dis bah tiens là, c'est là que c'est joué le titre. Et c'est vrai que hier, bah tu vois, l'Inter qui à midi et demi, alors moi j'ai regardé le match et puis à la fin du match, au vu de tout le chaos qui est tombé après, si la Juve gagne ce soir, à mon avis, avec potentiellement un Lazio qui pouvait les dépasser, ce sera peut-être plus compliqué pour le titre. Et finalement, ils ont grappillé un point. Eriksen arrive ce lundi. Donc voilà, il y a peut-être c'est un nouveau miracle qui sont encore dans la course. Et pourquoi pas arriver à détruire la Juve après 8 ans. Mais en tout cas, le fait que le mercato soit assez conséquent dès le mois de janvier, évidemment sous l'impulsion de Conte, c'est le fait qu'ils y croient, l'entraîneur, les dirigeants, les tifosi et les joueurs en primis.
Alors, on va passer au voisin, à l'AC Milan, Guillaume. Alors, c'est un débat qu'on aurait pu faire dans un épisode spécial, puis on n'a pas trop eu le temps et on le fait là, du coup, c'est sur l'arrivée de Zlatan à Milan, parce qu'aussi on a du coup un peu de recul, parce qu'il a dû jouer 3 matchs maintenant, titulaire.
Ouais,
plus une entrée en jeu, c'est ça, non?
Il était rentré contre. Alors attends, il faut que je me remémore. Je suis pas sûr qu'il. Tu vois, il avait joué contre Cagliari, il a joué contre l'Udinese,
titulaire contre Brescia.
Il a joué titulaire contre Brescia, c'est 3 titularisations de suite.
Et une fois entré en jeu.
Il le fait entrer en jeu quelques jours après son arrivée. Je crois qu'il a 3 matchs de titulaire de suite. C'est ça.
Il était rentré contre la Sampdoria. À domicile, le 0-0. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir un petit recul déjà sur au bout de un petit échantillon, évidemment 3 matchs, c'est pas énorme, mais c'est quand même un petit échantillon pour pouvoir en discuter. La question, elle est sobrement intitulée Zlatan, pourquoi faire ? Alors il y a 2 volets, je vais te laisser parler d'abord de tout ce qui est sportif, Guillaume, sur son apport dans l'effectif, par rapport aux autres joueurs, par rapport au but qu'il est capable de marquer. Et puis moi, je parlerai peut-être un peu de l'autre volet derrière.
Écoute, l'aspect sportif, alors je te laisserai parler de tout ce qui est apport extra-sportif niveau vestiaire et j'en passe. Sur le terrain, en tout cas, ce qu'on voit, et moi j'ai eu l'occasion de le voir des tribunes, ce qu'on peut dire en primier, c'est que c'est un Ibra à l'économie. C'est-à-dire qu'il imite beaucoup ses mouvements. Il connaît son âge. Il arrive aussi après plusieurs mois d'inactivité, après la fin de son aventure au Galaxy. Donc voilà, il est à l'économie. L'autre chose, c'est que Ibra, c'est quand même, connaît parfaitement son corps. Alors on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais niveau extra sportif, c'est quand même quelqu'un qui a essayé, un peu comme Ronaldo, voilà, qui sait ce qu'il lui faut et à quel moment. Et voilà, donc il joue en connaissant ses limites. Et évidemment que c'est plus l'Ibra que Milan et ses supporters ont connu dans les années 2010 quand il est arrivé et qu'il a gagné le titre tout de suite. Voilà. L'autre chose, c'est que depuis qu'il est arrivé, alors moi je ne crois pas forcément au hasard, c'est que Milan a quasiment gagné, je crois, 4 matchs sur 5. Donc forcément, ça ne peut pas être le fruit du hasard. C'est que Ibra a apporté quelque chose en plus sur le terrain. On l'a encore vu à Brescia. Il fait pas un gros match, il a une grosse occasion en première mi-temps, mais il est toujours là quand il faut. Sur le but, c'est encore lui qui met le ballon au centre. contre l'Udinese, le dernier but de Rebic à la dernière seconde, c'est lui aussi qui touche le ballon juste avant. Il attire tous les défenseurs sur lui. On en parlait tout à l'heure sur Dzeko et Ibra, c'est ce genre de joueur qui cristallise toute l'attention, tant par son aura, hein, parce qu'évidemment, bah, tout le monde connaît Ibra, et par son jeu. Il a beau avoir 38 ans, il a beau être aussi physiquement un peu limité. Ses contrôles, l'orientation de son corps, sa protection de balle, sa vision du jeu, même arrêté. Toi aussi, tu connais bien parce que tu le suis depuis très longtemps, à l'époque aussi où il joue en Suède, à Malmö. C'est quand même quelqu'un, quand il joue arrêté, a toujours cette vision du jeu qui est assez exceptionnelle. Donc voilà, c'est aussi ça la force d'un grand joueur, c'est de connaître ses limites et savoir à quel moment du match accélérer, à quel moment du match qu'il faut presser. Et voilà, c'est tout ce que peut apporter un joueur comme Ibra avec ses coéquipiers aussi sur le terrain. Voilà, c'est quelqu'un qui le guide beaucoup, qui donne des conseils. Voilà, il a quand même changé beaucoup de choses. L'autre chose aussi sur le terrain, c'est que Pioli est passé en 4-4-2. Ibra est arrivé, Piatek a plus beaucoup vu le terrain. Milan est passé en 4-4-2 avec Leao. De ce qui se dit, c'est quand même Ibra qui a dit à Pioli, bon, de tous les joueurs que tu as devant, je pense que Leao me correspond le mieux. Léo est encore un peu jeune et peut-être un peu friable, mais en tout cas voilà, pour le moment c'est une paire qui marche bien. Donc voilà, le fait qu'Ibra arrive, évidemment que ça a donné une autre impulsion aux joueurs, aux supporters, à tout le monde. Donc c'est pas le fruit du hasard si Milan a gagné 4 matchs sur 5. Après là, j'ai été séparé du côté plus vestiaire et
Non,
tout ce
non,
qui peut
bah,
apporter du poids.
tu peux en parler, toi, Guillaume, côté vestiaire, l'exemplarité au quotidien, dans sa façon de concevoir ce sport comme un métier.
Évidemment, bah c'est aussi pour ça qu'elle a été recrutée, hein, parce que voilà, le projet du Milan, voilà, on peut poser des questions quand même avec le fait de faire venir Ibra en plein mois de janvier comme ça, mais le fait de recruter Ibra, c'est parce que bah, Milan avait du coup l'effectif le plus jeune, et que bah, quand t'as un joueur comme Zlatan qui se met assis à côté dans le vestiaire, bah, peut-être que ça te pousse à faire plus, et de ce qu'on entend, c'est qu'à l'entraînement, bah, il n'a pas changé, et qu'il y a toujours le maximum de tous les joueurs. C'est que il demande aux jeunes d'être voilà de faire toujours plus de donner plus, et quand je te dis quand tu joues ou quand tu t'entraînes avec un joueur comme Ibra, forcément tu t'appliques plus et tu donnes plus. Donc voilà, Ibra a aussi été pris pour ça, j'ai envie de te dire même surtout pour ça, parce qu'au vu de la saison du Milan qui était quand même à peu près terminée, maintenant on pourra en discuter, mais voilà, elle était quand même très mal partie. Le fait de prendre Ibra, c'est surtout pour montrer aux autres joueurs, aux autres très jeunes joueurs, de voilà comment on se comporte, que le métier, bah, que le métier de footballeur, c'est pas forcément encaisser ton chèque à la fin du mois et publier des choses sur Instagram. C'est aussi être exemplaire à l'entraînement. Donc Ibra, je pense, a été pris en prémisse pour ça, c'est voilà l'exemplarité, et montrer aux jeunes joueurs du Milan voilà, qu'est-ce que représente ce club déjà, c'est pour ceux qui ne l'avaient pas compris, et surtout voilà toujours donner le maximum, comment t'entraîner, comment te comporter dans la vie de tous les jours et comment te comporter dans les matchs. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble qui fait que Ibra a été pris. Après, pour le futur, j'ai envie de te dire, voilà, c'est sûr que c'est un projet comme à peu près l'Inter, on en parle tout à l'heure, c'est aussi un projet à court terme parce qu'Ibra a 38 ans et qu'il n'est pas éternel. Hein. Même si beaucoup aimeraient, voilà, il va devoir aussi prendre sa retraite à un moment. Mais en tout cas, il a été pris surtout voilà, pour tout cet ensemble, que ce soit sur le terrain et surtout le vestiaire, pour montrer aux autres bah, comment le métier de footballeur marche aussi.
De toute façon, les jeunes joueurs ou les autres joueurs n'ont pas trop le choix s'ils veulent survivre à Ibra dans le vestiaire. C'est effectivement, il va falloir. De toute façon, quand tu écoutes les gens qui ont côtoyé Ibra dans les vestiaires, quand tu lis leurs interviews ou que tu leur parles, ils sont tous la même expression, le même avis, c'est que lui te demande beaucoup. Quand tu ne réussis pas tout, mais qu'au moins tu donnes tout. Il va être, on va pas dire gentil, mais normal avec toi. Par contre, s'il sent que t'en gardes sous la semelle et que t'es un peu en dilettante et que t'es pas très professionnel, là, par contre, il va te mettre des gros taquets et ça, c'est clair que. Mais tu vois, justement, ça me faisait penser à autre chose. Je dévie un peu du débat, mais tu vois, Milan est aujourd'hui symbolisé par Boban, Maldini, des légendes de ce club-là.
Ouais.
Et en fait, avec la jeune génération entre guillemets. Je me demande encore si ça représente quelque chose. Tu vois, d'avoir des joueurs comme ça, parce que tu sais, on dit, bah, en mettant des gloires à la tête du club, des figures importantes, bah, ça montre qu'on est dans un club de dingue, ça montre la richesse du passé, ça montre l'exigence, parce que ces mecs-là ont connu le club quand il a gagné, ils savent quelle exigence il faut, etc. Et sauf que quand t'as deux dirigeants imposants comme ça, qui ont en plus, Boban a eu des rôles importants ailleurs, tu vois, donc il a une expérience de dirigeant, et qu'il n'arrive pas à transmettre ça aux autres joueurs aux joueurs de l'effectif, tu vois, tu te dis, est-ce que c'est pas, en fait, c'est pas assez actuel pour ces joueurs-là? T'as l'impression qu'il faut quelque chose de plus actuel, de plus moderne, de plus en rapport avec leur réalité à eux. Est-ce que Boban, ça parle à Léao? Est-ce que Boban, ça parle à Franck Caissier? Est-ce que Boban,
je vois ce que tu veux dire. Alors, je pourrais te répondre à deux choses. C'est que, Théo Hernandez, on avait parlé à l'équipe au mois de décembre, qui avait dit que quand Paolo Maldini s'était déplacé pour le voir, il s'est dit bon, Paolo Maldini est venu à Ibiza me rencontrer, c'est pas n'importe qui.
Mais parce que donc, c'est son idole aussi.
Et parce que c'est son idole aussi, mais, et parce que aussi, alors, Théo Hernandez est aussi un peu plus vieux que certains autres joueurs du Milan, donc ça peut lui parler. Et évidemment que Paolo Maldini est quand même un joueur très connu et reconnu. L'autre chose, c'est, alors là je te retourne une question, c'est que est-ce que tu penses que, alors Ibra par exemple dans le vestiaire maintenant a un rôle actif, c'est-à-dire que voilà, il est joueur et du coup il peut impacter directement les joueurs qui jouent avec. Est-ce que tu penses que quand t'es dirigeant, un peu comme Totti l'a été à la Roma, est-ce que tu penses que tu peux impacter? Évidemment, tu peux avoir un discours dans le vestiaire et que t'as un rôle direct, donc tu peux dire des choses aux joueurs. Mais est-ce que tu penses que le fait de pas être dans le vestiaire, de plus être joueur, du coup, peut-être que ils disent bon bah écoute, en fait c'est juste mon patron qui me parle et puis bon bah moi je
c'est sans doute
après,
pas autant qu'un entraîneur ou un capitaine.
Voilà. C'était une question que je voulais te poser.
Alors la petite chose que je voulais faire, le petit laïus que je voulais faire sur Ibra, du coup moi ça m'a fait réfléchir sur la stratégie du Milan dans son ensemble.
Le projet.
Voilà, exactement, le projet. Rappeler un ancien joueur marquant qui a donc 38 ans, pour moi ce qu'a fait Milan, c'est une vraie solution de facilité. Je conçois l'apport sportif immédiat, ça je le conçois, et d'ailleurs j'en avais fait un papier sur Eurosport et j'avais dit il est tout à fait capable de marquer même 10 buts d'ici le mois de mai, il en est tout à fait capable. Mais pour moi c'est un vrai choix d'immédiateté et de court terme. Et en fait pour moi tu fais simplement que reculer le problème qui va se reproposer au mois de juin. Pour moi c'est en gros un pansement sur une jambe de bois à ce niveau-là. Ça montre plein de choses, ça montre l'échec du recrutement depuis 4-5 ans à ce poste de numéro 9. Faut quand même rappeler que depuis, alors j'ai pris 4-5 ans, mais même si je prends que depuis 2 ans et demi, Milan a recruté Léao pour 30 millions d'euros bonus compris, Piatek 35 millions hors bonus, Kalinic 25 millions entre le prêt et l'obligation d'achat, André Silva 38 millions hors bonus, le prêt de Gonzalo Higuain c'était 9 millions d'euros pour 6 mois. Donc ça, les profils, il y a un peu tout et rien dans les profils d'attaquants. Il y a le très confirmé comme Higuain, il y a le très jeune comme Léao, il y a le mec qui a flambé pendant 6 mois au Genoa qu'on a pris sur un espèce de gros coup de cœur. Il y a le André Silva qui est une étoile montante du football, qui joue à Porto dans un club très coté, donc on va aller le chercher. Pour moi, ça montre l'échec donc du recrutement au poste de numéro 9, ça montre l'échec total dans la constitution de l'équipe, parce que tout ce que tu as dit sur ce que va apporter Ibra au reste de l'équipe, c'est pas normal que tout passe par un seul joueur. Sur l'expérience, sur le professionnalisme, sur l'exigence au quotidien, sur tout ça, c'est pas normal que ça devienne d'un seul joueur. Donc il y a un échec dans la constitution de l'équipe, à la fois sur le plan sportif mais aussi sur le plan du caractère, de la personnalité. Ils ont quand même englouti quasiment 500 millions d'euros depuis 5 ans dans les transferts, le Milan. Donc quand on dit que le Milan est en difficulté, enfin a plus les moyens d'autrefois, c'est plus ou moins vrai, très honnêtement, avec des salaires quand même très confortables, et tu te souviens encore du salaire de Pepe Reina pour être deuxième gardien. Ça montre aussi le panic buy, où t'es un peu désespéré, parce que ta situation elle commence à être vraiment catastrophique, où là tu lâches un peu d'argent, chose que t'as refusé de faire pour prendre un bon entraîneur comme Luciano Spalletti. Et ça, c'est, je sais que c'est une de tes marottes entre guillemets, mais ouais, voilà, c'est ça. Mais t'as tout à fait raison là-dessus. Et ça montre aussi un changement de cap brutal, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a 6 mois, Boban, Maldini, Massara et Gazidis nous expliquaient que Milan allait recruter des jeunes éléments à fort potentiel, que on allait beaucoup miser là-dessus, etc. Donc ça veut dire qu'en 4 mois de résultats négatifs, tu passes de « faut valoriser beaucoup les jeunes » à « on va recruter un mec de 38 ans parce que notre saison elle est catastrophique et qu'il n'y a que lui qui peut redresser le navire ».
Moi, je suis, bah, honnêtement, dans ton discours, je suis d'accord avec toi. Voilà, deux choses, c'est que les propriétés ont été différentes. Donc, par exemple, quand il y avait les Chinois, c'était de l'investissement immédiat, voilà, en recrutant certains joueurs, et moins peut-être de joueurs en devenir.
Ça,
Donc,
c'est plus récent.
forcément, oui, c'est plus récent, mais je veux dire, en fonction des dirigeants qui sont mis en place, parce que Milan a quand même connu beaucoup de dirigeants, il y a eu Fastenay, il y a eu Mirabelli, il y a eu Leonardo. Donc, en fonction des directives des propriétés, les dirigeants se sont adaptés aussi. Tu te rappelles du mercato chinois.
Mais c'est
Alors après, c'est
problématique, hein, je trouve ça, hein.
évidemment, mais le fait que Milan n'est pas une propriété, tu sais, Elliott, ça reste quand même un fonds d'investissement qui sera pas là très longtemps, hein. On parle beaucoup de LVMH, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que c'est un problème. C'est que, évidemment, quand tu changes de propriétaire, tu changes de stratégie. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que moi, je pense qu'Elliott, qui a aussi mis l'argent dans le LOSC, par exemple, c'est que moi, je l'avais mis sur Twitter à l'époque où le club a été repris. Et c'est pour ça aussi que je pense que Leonardo et Gattuso sont partis. C'est parce que cette stratégie de recruter que des jeunes, forcément, au bout d'un mois, se heurte à des certaines limites. Et je suis d'accord, alors, ce qui peut paraître étonnant, parce que je ne le parle pas forcément dans mon cœur, mais avec Mino Raiola, qui a dit il y a 2, 3 jours, en disant, mais je ne suis pas sûr que le Milan là, c'est le Milan que souhaite et que rêve Boban et Maldini, et je pense qu'il a raison. Boban l'a souvent dit dans les interviews, et tu l'as vu, il a dit, voilà, moi je veux aussi des joueurs d'expérience, parce que une équipe de jeunes, elle peut parfois, et forcément, elle peut pêcher d'expérience, elle pêche de plein de choses, et faut rappeler que Milan, à un moment aussi, a été au bord de la zone rouge, donc là, ça va un peu mieux pour le club lombard, mais en tout cas, il y a un moment, c'était plus compliqué, et moi, je pense que Boban et Maldini, ils aimeraient. Alors là, on l'a vu avec Ibra. Alors, est-ce que c'est un effort des propriétaires pour se dire, bon, voilà, il faut aussi mettre de l'expérience? Mais moi, je pense que Boban et Maldini, ils veulent pas forcément que des jeunes et ils veulent aussi des éléments d'expérience. Et je pense qu'à un moment, si le propriétaire ne change pas et si cette directive reste les mêmes, moi, je ne serais pas étonné de voir Boban, par exemple, claquer la porte.
Oui, mais
Parce
c'est
que
problématique, tu vois,
c'est.
que le
Oui?
propriétaire et les dirigeants qui représentent le propriétaire et mettent en œuvre la stratégie du propriétaire n'aient pas le même point de vue. Je trouve ça hyper
Évidemment.
problématique.
Et c'est public, hein. Et Boban l'a dit publiquement, hein. C'est pour ça qu'alors que l'été dernier, c'est resté une rumeur, mais ça a quand même été avéré, c'est qu'il y a eu quand même un intérêt réel pour Luka Modric, qui était à la très très vague, mais en tout cas, il y a eu cette possibilité parce que voilà, Maldini et Boban sont pas bêtes. Ils l'ont souvent dit, ils veulent voilà remettre Milan sur les bons rails, et ils savent très bien que ça marchera pas. Si tu recrutes que des jeunes, des joueurs comme Leao, c'est très bien. Des joueurs comme alors Bennacer, il est très bon avec Milan, mais il y en a d'autres plus jeunes qui restent aussi. Voilà, il faut les former. Et l'arrivée d'Ibra va dans ce sens-là, mais je pense qu'à un moment, si la stratégie ne change pas ou si le propriétaire ne change pas, les dirigeants vont se poser des questions. Et je te dis, moi, je serais pas étonné de les voir claquer la porte parce que tu le sais aussi bien que moi, c'est qu'une équipe que de jeunes, comme on l'a vu au LOSC par exemple. C'est trop compliqué. Il faut toujours un ou deux éléments d'expérience, voire par ligne, si c'est possible. Mais tu peux pas faire une équipe de jeunes, encore plus à Milan, qui reste un club quand même assez mythique. Et quand tu arrives à Milanello, tu as besoin quand même de respirer voilà, ce que ça représente. Et si personne n'est là, par exemple, tu vois, moi, un joueur comme Abate, qui n'était pas quand même le meilleur latéral droit du monde, bah, il dépannait bien. Et moi, je pense que Milan aurait bien fait le garder parce que c'est ce genre de joueur qui permet aussi aux jeunes d'évoluer tranquillement. Alors là, avec Ibra, je pense qu'ils ont fait une paire de coups, ils ont fait venir un joueur pour le terrain parce qu'ils savent que Ibra, encore aujourd'hui, peut changer la donne sur le terrain. On le voit encore aujourd'hui, même si c'est parfois limité. Et dans le vestiaire, voilà, ils font venir quelqu'un de 38 ans qui a un aura quand même assez exceptionnel, qui est respecté par tout le monde, pour faire comprendre aux plus jeunes que voilà, Milan, c'est pas un club banal. Après, je te dis, à voir si la stratégie va changer, mais je pense qu'à un moment, elle va sérieusement se heurter à la volonté de Boban, voire celle de Maldini, de recruter des joueurs d'expérience, quoi. Je vois pas Milan encore recruter des potentiels futurs stars, sinon le club va nulle part,
Bon,
pour moi.
je suis assez d'accord avec toi et pour moi c'est quand même un beau symbole du flou général à tous les étages un peu
Oui,
de Milan.
c'est
On
vrai.
passe au Napoli. Alors le Napoli qui, alors c'est pareil, c'est des débats sur le long terme. Hein, c'est pas parce que le Napoli a battu la Juve hier que ça nous a fait changer notre débat. D'autant plus que, comme je l'ai mis après match, hein, tu l'as vu aussi Guillaume, on peut pas dire que le Napoli ait fait un grand match. Ils ont été très sérieux en faisant des choses simples, avec de l'intensité et
exactement.
Des courses.
Ouais.
Mais ça a suffi à battre cette Juve dont on parlera juste après. La question c'est, est-ce que l'heure de gloire, alors gloire c'est un bien gros parce qu'ils ont rien gagné, mais est-ce que le très bon moment ou les très bonnes possibilités de remporter quelque chose du Napoli, est-ce que c'est finalement déjà passé et que ça risque de durer un petit moment? En gros, est-ce que Naples est un peu destiné à rentrer dans le rang en Serie A à court et moyen terme? Alors à très court terme, oui, puisqu'a priori cette saison ça va être compliqué d'accrocher la Ligue des Champions, bien que ça ne soit pas impossible. Mais clairement, on parle souvent de la saison à 91 points, Guillaume, du Naples ouais. de Sarri qui était tout proche de remporter le titre. Naples a profité ces dernières années des difficultés des clubs milanais qui voilà, ont laissé une brèche totale pour se qualifier en Ligue des Champions et pour accéder au podium de façon constante. Naples a même lutté, je viens de l'expliquer, pour le Scudetto plusieurs années et notamment la saison des 91 points de Sarri. Le souci, c'est que j'ai le sentiment qu'avec la Juve qui reste quand même un club omnipotent et qui remporte tous les trophées, avec l'Inter qui revient très très fort avec de très fortes ambitions, avec des clubs romains qui sont capables du meilleur comme du pire, clairement, c'est-à-dire de finir deuxième comme de finir septième, et avec, en attendant l'éventuel retour du Milan, et je pense que Milan ne va pas demeurer encore dans cet état-là très longtemps. J'ose espérer qu'il va se passer quelque chose aussi dans ce club-là, comme il s'est passé quelque chose à l'Inter. Est-ce que Naples va pas rentrer dans le rang à court et moyen terme, Guillaume? Après, j'expliquerai quelques arguments.
Écoute, tu as parlé de la saison de 91 points de Sarri. Je pense que ça a été quand même un tournant dans l'histoire récente du Napoli. Parce qu'après cette saison-là, il n'y a pas eu peut-être le renouvellement nécessaire de l'effectif pour redonner une nouvelle impulsion à l'effectif qu'avait Sarri. Ancelotti arrivé, c'est pas super bien passé. Maintenant, il y a Gattuso. Voilà, c'est sûr que le projet du Napoli, on a un peu de mal à comprendre en ce moment. Beaucoup d'argent a été investi. Je conseille d'ailleurs les derniers tweets de Napoli France aussi qui a fait un résumé de la situation des dépenses de Giuntoli. Donc je pense, de toute façon, cette saison, quoi qu'on dise, c'est que le Napoli est rentré dans le rang. Comme tu l'as dit, l'Inter a augmenté, est redevenu, du moins, l'Inter qu'on a pu connaître jadis. La Lazio a eu une saison exceptionnelle. La Roma, est quand même plus sérieuse qu'on l'a connue auparavant. Bon, Milan revient petit à petit, mais voilà, je pense que l'effectif, n'avait pas été déjà assez renouvelé à l'époque. Ensuite, il y a beaucoup de problèmes. On le sait, entre le président et ses joueurs, est-ce que Calero va rester, c'est une question. Est-ce que Mertens, qui était en froid très longtemps avec De Laurentiis, alors les discussions ont visiblement repris, mais ça a été long quand même à se décanter. Est-ce qu'un joueur comme Milik aussi est destiné à rester encore longtemps? Est-ce que Alan, qui a des envies d'ailleurs, après avoir été sévèrement sanctionné après l'épisode de la mutinerie, va rester? Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent dans l'effectif actuel. Qui doivent être réglés, qui ne sont toujours pas, qui traînent, tu le sais autant que moi, comme des boulets. De Laurentiis, c'est encore cette saison, a taclé Mertens et Calero à plusieurs reprises, en gros en disant que Mertens, s'il veut aller en Chine, il peut y aller, moi c'est pas trop mon problème. Donc, voilà, je pense qu'il y a ce problème-là. Il y aura aussi le problème de l'entraîneur. Est-ce que le Napoli va garder Gattuso? C'est une bonne question. Sur qui ils vont miser si des paris il y a?
Voilà, honnêtement, vraiment, retrouver des ambitions avec Gattuso entraîneur, j'y crois pas trop.
C'est une question. C'est un débat qu'on pourra avoir. Mais pour le moment, on est quand même dans le flou total. Alors, il y a eu cette victoire contre la Juve qui est quand même, qui a un rayon de soleil dans l'obscurité totale de cette saison qui est très compliquée. Est-ce que c'est un point aussi qui permettrait pas de repartir de zéro et recommencer un nouveau cycle avec un autre entraîneur? C'est possible. Mais en tout cas, pour l'instant, comme tu l'as dit, le fait que les autres clubs peut-être plus huppé comme l'Inter ou la Roma qui revient, ça n'aide pas le Napoli qui a été favorisé aussi par le déclin de certains clubs. Donc pour l'instant, cette année en tout cas, le Napoli est rentré dans l'an. Là-dessus, il n'y a aucun doute possible, on le voit au niveau du classement.
Et alors sur les prochaines années, il y a quelques indicateurs quand même que je souhaitais souligner. La première chose, c'est que c'est pas un club qui est structuré. comme la Juve, Milan, l'Inter et la Roma. Pas aussi bien structuré, c'est-à-dire que ces quatre clubs ont des structures de très grands clubs à tous les niveaux. J'ai pas le sentiment que ça soit le cas à Naples, aussi bien dans l'organisation du club que dans le côté encore très familial. Alors, de ce club-là, à travers les propriétaires, que les installations, etc., on est quand même loin des quatre autres clubs. C'est pas un club qui est très orienté business. Son développement économique, moi, me semble assez limité pour beaucoup de choses. Le merchandising, quand on va à l'étranger, le Napoli, c'est Maradona, d'accord, mais derrière, il n'y a pas grand-chose en termes d'icônes club ou de choses qui peuvent te pousser, enfin pousser des gens qui ne s'intéressent que modestement au football italien à devenir fan de cette équipe, notamment dans des marchés comme l'Asie qui sont aujourd'hui très demandés ou les États-Unis. Le ticketing dans le stade, entre les grèves de supporters, le stade vétuste, en termes de ticketing, les ressources sont clairement limitées. Les recettes commerciales internationales, pareil, le club bénéficie quand même, enfin souffre d'un manque de visibilité, de réputation par rapport aux quatre autres clubs, enfin surtout par rapport à Juve, Milan, Inter qui sont installés depuis très longtemps. La Roma se développe très bien à l'international grâce à l'arrivée des propriétaires américains et réussissent à passer des accords commerciaux importants avec des marques globales, chose que n'arrive pas à faire encore le Napoli. Il y a aussi encore une autre donnée, c'est que le club vient tout juste de passer la barre des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le classement de Deloitte. Mais est-ce qu'il peut aller beaucoup plus haut? Aujourd'hui, on sait que 200 millions d'euros, c'est quasiment la base. C'est l'entrée dans le top 20 européen en termes de chiffre d'affaires. Or, on sait qu'aujourd'hui, pour s'installer de manière durable, tout en haut du football italien, pour le coup, il faut une dimension financière importante. Et aujourd'hui, avec 200 millions d'euros, t'es loin derrière la Juve, l'Inter, le Milan, et t'es aussi derrière la Roma, qui doit être à 235 ou quelque chose comme ça, sur la saison 2018-2019. J'ai le sentiment qu'il y a un vrai plafond de verre économique, pour le coup. Je suis pas persuadé que ça puisse aller chercher beaucoup plus loin dans la configuration actuelle, c'est-à-dire avec un propriétaire de Laurentiis qui a d'autres business, qui... J'ai pas envie de dire que Naples n'est pas une priorité, parce que ça serait mentir et ça serait oublier un peu tout ce qu'il a fait aussi pour remonter Naples de nulle part. Mais c'est pas sa seule activité très importante, on va dire ça comme ça. Et surtout, derrière, on peut parler des dépenses qui ont été effectuées. Moi, j'ai l'impression, alors ça, c'est un peu commun à la Roma, c'est peut-être dans un peu plus dans l'ère actuelle, c'est que ils payent très cher des joueurs moyens, en fait. Quand je vois par exemple si on prend le mercato de janvier, Lobotka à 20 millions d'euros, Demeux à 12 millions d'euros, Di Marzio vient de parler d'une offre de 21 millions d'euros pour Petagna. Je trouve ça très cher, honnêtement. Je dis pas que c'est des mauvais joueurs, je dis juste que dépensé beaucoup d'argent. Même si tu vois, on pense à Elmas à 16 millions d'euros qui est arrivé l'été dernier,
Lozano
qui a 40 et quelques aussi. Tu vois, on parle de Politano aussi, un peu plus de 20 millions d'euros. C'est des bons joueurs. Est-ce que c'est des joueurs qui vont te permettre d'approcher le niveau de la Juve ou de l'Inter? J'en suis pas persuadé non plus. Et dans tes actifs, avec la saison un peu catastrophique du club, les performances qui sont moins bonnes de joueurs comme Koulibaly et Alan, qui prennent en plus une année de contrat supplémentaire, c'est-à-dire que tu vas forcément le vendre moins cher parce qu'il y a moins de contrats derrière. Les actifs sont moins importants dans cette équipe. Aujourd'hui, alors Insigne a marqué hier, et je suis d'ailleurs ravi pour lui, j'espère que ça va lui redonner un peu de confiance et que ça le rapprochera aussi de certains supporters qui le critiquent beaucoup pour des performances qui sont vraiment, pour le coup, très décevantes depuis des mois. Mais qui va acheter Insigne au prix dont rêve Naples? Aujourd'hui, Naples aimerait quoi, 70, 80 millions pour Insigne? Personne ne va aller chercher un Insigne à ce prix-là. Alan, que tu espérais vendre 80 millions d'euros, aujourd'hui, alors faudrait que je me renseigne sur combien d'années de contrat il lui reste à Alan, mais qui va aller payer plus de 50 millions d'euros un joueur comme Alan aujourd'hui? C'est pas donné, il lui reste 3 ans de contrat à Alan. Kalidou Koulibaly, c'est pareil, sa saison elle est compliquée, donc t'as des actifs dont la valeur baisse, t'as aussi des actifs qui déçoivent beaucoup. Donc ils sont plus tant que ça des actifs. T'as des joueurs qui vont partir en fin de contrat sur lesquels tu vas rien toucher. Donc moi, comme tu l'as expliqué juste avant sur Mertens et Caillero, même si Mertens renégocie visiblement une prolongation de contrat, moi j'ai beaucoup de questions et j'ai l'impression que le plafond de verre économique s'ajoute au plafond de verre sportif de la saison en cours et qui pourrait se répéter sur le court et le moyen terme, tout simplement.
Écoute, je reviens sur tes propos sur les infrastructures. Deux choses, le San Paolo, déjà aussi, hein, qui est quand même, tu te rappelles, le Napoli-Liverpool, avec les médias anglais qui prennent des photos des tribunes, parfois un peu délabrées. Alors, il y a eu du mieux, il y a eu de la rénovation, mais c'est vrai que ça reste aussi un problème. Et la deuxième, on le sait, c'est que aussi, par exemple, quelque chose qui, c'est un petit détail, mais ça résume aussi bien le côté un peu ancien de la police, aussi le service de presse. Voilà, beaucoup de gens aussi nous ont fait quelques retours sur le fait que c'est parfois un peu rétro, un peu contrairement à l'Inter, Milan, la Juve ou la Roma qui ouvrent facilement leurs portes ou qui sont beaucoup plus accessibles. Le Napoli, ça reste comme tu l'as dit un club familial et que c'est toujours compliqué de contacter, de se rendre au centre d'entraînement, enfin plusieurs choses qui font que, comme tu l'as dit, le Napoli reste un club à développer parce qu'il n'est pas totalement encore.
Le centre d'entraînement n'est pas dingue non plus. Hein.
Bien sûr, c'est loin par exemple de Trigoria pour la Roma, de Milanello pour Milan, d'Adriano Gentile pour l'Inter, da Continassa pour la Juve. Enfin, voilà, il reste beaucoup de progrès à faire. Et l'une des questions, c'est est-ce que la machine va pouvoir être lancée après une année comme ça? Comme tu l'as dit, les gros aussi rentrent dans le rang, et j'ai envie de croire que même la Roma ou Milan à un moment vont quand même revenir jouer quand même les premières places. Est-ce que le Napoli va pouvoir avoir une deuxième impulsion et retrouver rejouer du moins les seconds rôles ou si ce n'est le premier? Pour l'instant, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, c'est compliqué d'imaginer. Après voilà, le mercato, comme tu l'as dit, Petagna, c'est un bon joueur, hein. Moi, à 10 millions, 12 millions, je le prends. Mais est-ce qu'avec lui,
à
tu peux viser...
À 21, est-ce que tu le prends?
21, non. Non, pour moi, c'est trop. Mais après, on le sait aussi, le mercato, l'inflation des prix, ça reste... Quand tu vois que l'échange Kurzawa des Chilios se ferait sur des valeurs de 25 millions chacun, j'ai envie de te dire que voilà, c'est compliqué de fixer des prix, on va dire, un peu projectifs. Mais voilà, est-ce que les ambitions... Quel va être l'objectif? Sûr que les objectifs chaque année descendent. Il y a eu l'objectif du titre. Et je pense que cette saison 91 points, on en parlera longtemps parce qu'elle fait très mal. Elle fait très mal au Napoli et elle fait très mal encore aujourd'hui. Et est-ce que les objectifs futurs pourront coïncider avec ceux qu'on a connus à l'époque? C'est une vraie question. Mais comme tu l'as dit, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de progrès. Et voilà, j'ai envie de te dire que le Napoli n'est pas encore un club mondial. Tu vois, il faut encore qu'il développe, comme tu l'as dit, une marque. Il manque plusieurs choses.
Et ça, honnêtement, ça prend du temps hein, pour pouvoir parler de l'exemple de la Roma. Ça fait 8 ans que le club a changé de main et est passé à des propriétaires américains. Le travail est toujours en cours. Hein.
Ouais.
Et Rome, c'est la ville de Rome. Hein. C'est connu dans le monde entier. Hein.
Alors, tu vois, par exemple, que quelqu'un comme Agnelli, alors certes, la Juve est un club international et connu depuis très longtemps, mais le travail qu'il fait depuis son arrivée en 2010, tu vois la modernisation du logo par exemple ou plein d'autres choses, le nouveau stade, enfin, il a fait quand même beaucoup de choses pour moderniser le club parce que il a une vision quand même très
business.
Voilà, très business, très entreprise. Pour lui, la Juve, c'est évidemment son club de cœur et son club de famille, mais c'est aussi une entreprise. Et il sait comment la faire marcher, il sait comment avec la mondialisation d'aujourd'hui, il sait comment ça marche. Et c'est vrai que parfois De Laurentiis, même dans ses interviews, tu vois, est très particulier, est très rétro, et il utilise les médias comme il le souhaite. Donc c'est vrai qu'un
Agnelli,
beaucoup,
c'est simple, hein, il parle de son club comme une azienda. Hein.
Oui, exactement.
C'est pas comme un club. Hein.
Exactement, c'est une entreprise. Voilà. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses pour le Napoli et beaucoup de progrès à faire. Mais c'est vrai que cette saison, honnêtement, elle est très difficile. On va voir comment elle se termine. Mais comme tu as dit, pour la Ligue des Champions, quand même, ça me paraît compliqué. Et voilà, va falloir régler quand même plusieurs dossiers épineux, à commencer par Mertens, Calderon, tu l'as dit, Alan, et avoir les autres éléments qui pourraient éventuellement partir ou rester. Mais voilà, déjà, se focaliser peut-être aussi sur le prochain coach. Je serais curieux de savoir ce qu'il aurait fallu de faire du Napoli s'il croit en Gattuso. Alors certes, il a gagné contre la Juve, mais est-ce que ça pourrait être un entraîneur sur le long terme, ou est-ce qu'ils ont déjà un autre nom Ouais, je sais pas, il y a Pochettino qui est libre. Alors, est-ce qu'il viendra à Naples, c'est une autre question. Mais il y a Spalletti, par exemple. Voilà, tout le monde sait que j'aime beaucoup Spalletti. Est-ce que ça pourrait être une option? Alors, je serais curieux de savoir si les tifosi du Napoli, pardon, qui nous écoutent, voilà, peuvent nous répondre sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux. Mais c'est vrai que moi, je serais curieux de savoir si Gattuso les a convaincus pour l'instant.
Alors, on passe à la Juve, Guillaume. Ça tombe bien parce qu'on termine par Naples et la Juve qui était le match d'hier. On a décidé de faire un focus sur Rabiot. Alors, t'en as fait un papier déjà sur Eurosport que je vous invite à aller voir. Bah, du coup, je vais te laisser pas mal parler sur Rabiot qui a connu un début de saison très compliqué. Pour de multiples raisons, l'adaptation, les problèmes physiques, hein, puisqu'il avait passé plus de 6 mois sans jouer, des blessures aussi, qui l'ont éloigné un petit peu des terrains, et puis il revient bien parce qu'il a du temps de jeu, et revient bien aussi parce qu'il profite de ce temps de jeu pour se montrer plutôt performant.
Écoute, tel un diesel, il s'est remis en route. Évidemment que c'est plusieurs modes d'activité au PSG ont joué. Et Sarri, que ce soit Sarri, Paratici ou Nedved, l'ont souvent dit en début de saison, ils ont dit, soyez patients avec Rabiot. Voilà, en gros, on le remet en place physiquement pour que petit à petit, il s'intègre aussi à cette nouvelle réalité qu'est la Juve et le championnat italien. Voilà, ils l'ont remis sur pied. Il a eu aussi, alors c'est un petit coup de pouce du destin, mais les blessures, alors que ce soit Khedira, alors Emre Can, lui, voilà, va certainement partir au mercato et il était exclu la Ligue des Champions cette saison. Il y a Bettencourt qui était blessé. Voilà, il a aussi profité de ça pour avoir du temps de jeu, tu l'as dit. Il a enchaîné les matchs et les titularisations. On a tout de suite vu que petit à petit, il monte en puissance et que bah il était de plus en plus convaincant. Moi, j'aime beaucoup son activité sur le terrain. Je pense que son match, même en Coupe d'Italie contre la Roma, avait été très bon. J'avais beaucoup aimé sa complicité avec Pjanic et Bettencourt, que ce soit en phase de pressing, qui sont alterné les positions. Voilà, c'était vraiment un milieu de terrain complémentaire. Et aussi, ce qu'on peut dire, alors parfois il y a aussi des mauvaises langues qui disent oui, mais Rabiot joue que relayeur gauche. On peut dire qu'il a joué aussi relayeur droit, sans trop parler, sans trop réclamer. Voilà, sans dire bah oui, c'est pas mon poste et j'ai pas envie de jouer à ce poste-là.
Mieux pas trop le faire à la Juve, ça.
Et voilà. Et du coup, il s'est tué, il a parlé, il a joué, pardon, il a été bon, très convaincant. Physiquement, on le voit quand même dans sa dimension et dans ce qu'il propose dans ses courses, dans le volume. Il progresse beaucoup parce qu'il va mieux physiquement. Mais c'est vrai que, tu vois, j'étais assez surpris, et tu me diras ce que tu en penses, assez surpris de ne pas le voir contre le Napoli dimanche soir. Est-ce que c'est étonnant, dis-toi, que Rabiot, depuis qu'il est titulaire, la Juve a gagné tous ses matchs. Et les 3 matchs où il n'a pas joué, c'est les 3 matchs que la Juve a perdu. 2 fois contre la Lazio, en série, en Super Coupe, et 1 fois contre le Napoli dimanche.
Et c'était
Et ça
parmi les trois
coïncide
matchs
beaucoup.
les plus difficiles aussi.
Voilà, c'est
Hormis
vrai
celui
aussi.
contre la Roma,
C'est vrai
peut-être,
aussi.
mais...
Mais en tout cas, au niveau du terrain, on voit quand même un joueur qui est de mieux en mieux. Et alors, ça va être la grande question. Et je vais te lancer la patate chaude. Mais est-ce que Matuidi, à l'heure actuelle, mérite plus de jouer que Rabiot? Est-ce qu'il est meilleur? Alors, ils ont des qualités différentes, c'est évident. Mais quand je vois le match de Matuidi hier, alors au-delà de son centre raté sur le premier but du Napoli, qui a fait le tour des réseaux, parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Mais pour moi, le milieu Bettencourt, Pjanic, Rabiot que j'ai vu contre la Roma en Coupe d'Italie, m'a beaucoup convaincu, pardon, et j'aurais aimé le revoir contre le Napoli.
Moi, je pense que le milieu aujourd'hui, hein, le milieu Bettencourt, Pjanic et Rabiot n'est pas viable dans les gros matchs, parce que devant, enfin, ça dépend de qui tu mets devant. Si c'est comme hier, hein, où t'as le trident offensif
Oui,
avec des joueurs qui défendent très peu, c'est
très
absolument pas
équilibré.
viable. C'est trop déséquilibré. Et aujourd'hui, tu peux plus te présenter avec une équipe comme ça, qui peut se faire transpercer trop rapidement sur des contre-attaques. Ou même sur attaque placée parce que les trois de devant ne défendent pas. Donc le problème de la Juve qu'on souligne depuis quelque temps, c'est que pourquoi Matuidi est titulaire, c'est pas pour ses qualités offensives. Matuidi, il est là pour équilibrer l'équipe. Le problème, c'est que quand t'as un trident offensif, t'es obligé de... Enfin, ce trident-là offensif, pas n'importe quel trident, ce trident-là, avec Ronaldo qui ne défend pas, Higuain qui défend très peu, et Dybala qui... Et pas dans le combat, c'est pas un joueur de combat, Dybala. Donc t'es obligé d'avoir des profils comme ça. C'est pour ça que des profils comme Khedira, comme Emre Can, comme Matuidi sont aujourd'hui à la Juve. C'est pas parce que c'est des incroyables manieurs de ballon, c'est pas parce que c'est des joueurs qui vont te faire vachement progresser sur l'utilisation du ballon, sur la construction lente, sur la verticalisation, sur le fait de faire jouer les autres, sur être décisif dans la surface, etc. Ça, c'est pas ça.
C'est pour filtrer. Ouais.
Voilà, c'est pour filtrer, pour équilibrer le jeu, etc. Et là-dessus, t'as besoin de ces joueurs-là. Donc, si c'est avec la même configuration du trident offensif, évidemment que non. Et je me pose même la question de si tu rajoutes, par exemple, un Ramsey en numéro 10, avec Dybala un cran plus haut et Ronaldo, je suis même pas persuadé que ça soit suffisant pour des joutes européennes compliquées ou pour, par exemple, le match contre l'Inter. Moi, je pense que je lirais pas forcément l'avenir de Rabiot sur le terrain avec celui de Matuidi. Peut-être un peu plus avec celui de Bentancourt. Le fait est que, je l'avais dit lors du bilan, pour moi, le milieu de terrain de la Juve, il est inférieur au milieu de terrain de beaucoup de clubs européens.
Pour moi, il est même inférieur à celui qu'on a connu, Vidal, Pogba.
Ah, bien sûr, mais très inférieur à ce niveau-là. Rabiot, c'est clair qu'il ajoute de la qualité, que c'est plus facile de combiner avec lui, plus facile d'accélérer le rythme, il est capable de se projeter avec le ballon, il est capable de la donner un peu plus rapidement aussi. D'ailleurs, j'ai noté pas mal de progrès là-dessus, où il multiplie un peu les touches de balle au PSG, et là, je trouve qu'il y a un peu de mieux à ce niveau-là, un peu plus de spontanéité, un peu plus d'intensité aussi dans son jeu, même si tout n'est pas encore parfait, mais la Juve est le bon club, le club idéal pour progresser sur le plan de la mentalité et de la personnalité, de l'implication défensive aussi. Donc Rabiot pour moi c'est à la limite c'est le joueur que je cocherai en numéro 2 aujourd'hui derrière Pjanic dans le milieu de terrain et le troisième se jouant sur un poste de bagarreur entre Khedira quand il est pas blessé, Emre Can pour un peu plus de physique, de densité la physique et Matuidi pour le volume de course, le repli, etc.
Mais du coup Rabiot tu mettrais relayeur gauche, tu penserais
relayeur droit, je pense qu'il a tout à fait les qualités pour être relayeur droit.
D'ailleurs il travaille dessus hein, disait
exactement, Sarri le fait bosser beaucoup là-dessus et je pense qu'il a tout à fait les qualités pour faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la Juve? Je sais plus.
T'es déçu par le jeu peut-être?
Oui, bah ça c'est, oui ça c'est pareil, c'est une de nos marottes.
Oui, on en reparle pas parce qu'on n'a pas
voilà. Longuement. Mais là en plus, non seulement ils déçoivent sur le jeu, mais moi aussi sur la personnalité. Hein. J'ai vraiment, ils auraient mis le maillot de la Roma ou de la Fiorentina. Pour moi, c'était pareil.
Bah, oui, j'aurais pas dit mieux et j'étais totalement d'accord avec ton tweet quand tu disais que le Napoli a pas fait match de l'année. Ils se sont contentés de faire des choses basiques, simples, de mettre de l'intensité que mérite et que requiert un match de ce calibre-là. C'est toujours un match attendu à Naples quand tu joues la Juve. Mais c'est vrai qu'en face, il y avait un répondant limité à zéro. Il y avait rien du tout. Beaucoup d'effets techniques. Il y a eu ce sursaut d'orgueil de Ronaldo à la fin. Qui s'arrête plus de marquer, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, ouais, ça a été très compliqué. Et le problème, Yoann, c'est qu'à chaque podcast, on le dit, mais que j'ai l'impression que le chantier est toujours en cours.
Ouais, et puis et là, ça fait quand même. Là, il reste moins de 4 mois de compétition. Hein, donc,
Et Sarri n'est pas forcément rassurant en conférence de presse.
Non, bah, il arrive à lister tous les mots. Il les liste, hein, d'ailleurs, ouais. Mais ils ne sont pas corrigés, quoi.
Et hier, toi, moi, ce qui m'a marqué dans ces déclats, c'est que, au-delà de ces déclarations qui a fait beaucoup parler du fait qu'il soit pas content et qu'il préfère pas se contre Napoli, c'est le fait qu'il dise qu'il y a
déjà,
une approche.
Je me permets juste de te couper là-dessus. Ça, c'est un truc que t'entends pas dans la bouche d'un entraîneur de la Juve, normalement.
Ah non, ça, c'est, bah, je pense honnêtement que ce soit Nedved ou Agnelli n'ont pas, enfin, moi aussi, ça m'a, alors, si tu veux la vérité, c'est au début, j'ai lu sur Twitter, je me suis dit, attends. Connaissant Twitter, je vais aller vérifier quand même. Et quand je l'ai vu, que ce soit sur la Gazzetta ou sur le site de Sky Sport, je me suis dit, ah. Et c'est assez, ouais, je comprends que les tifosi de la Juve sont un peu piqués parce que
un entraîneur de la Juve, il est toujours dégoûté de perdre et il fait pas de sentiments avec les adversaires.
Oui, mais et j'ai envie de te dire, même un autre club, enfin si.
Ouais,
si,
mais particulièrement la Juve quand même.
Particulièrement la Juve, qui évidemment, voilà, plus une institution peut-être que d'autres, mais c'est quand même compliqué dans un coach qui dit ça de son ex-équipe en plus. On a vu quand même qu'il n'avait pas été forcément bien accueilli par les supporters. Donc,
non, puis en plus, que tu le dises, à la limite, tu es leader du championnat avec 10 points d'avance et tu joues bien. Et... D'accord, mais là, de ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est quand même plus une Juve dans le dur en termes de prestations, de jeu, de contenu exactement que qu'un jeu flamboyant quoi, donc qui fasse une remarque comme ça, oui, moi ça m'a beaucoup surpris. Donc
bref, disons que ça plaide pas en sa faveur déjà. Voilà. Et moi je veux te dire, qu'est-ce qu'on aurait dit si c'était Allegri qui était sur le banc hier, qui avait produit ce genre de match là. Allegri a pris quand même très cher, hein, pour parler vulgairement un peu, hein, il a pris très cher l'année dernière ou même les années précédentes quand le contenu n'était pas à la hauteur du matériel qu'il avait. Mais hier, il n'y a quand même pas grand chose à retenir. Et un autre point que je voulais souligner et je te le donne parce que je sais que tu y es affectionné, c'est la gestion des latéraux. La gestion des latéraux que Stanislas Touchaud d'ailleurs a souligné aussi à plusieurs reprises, et tu l'avais fait toi aussi en début de saison, mais la gestion des latéraux que la Juve paye aujourd'hui, et je suis pas sûr, tu vas dire ce que tu en penses, que l'arrivée de Kurzawa
va changer
beaucoup.
C'est une opération typiquement comptable pour effectuer des plus-values et pour améliorer ton bilan financier. On sait qu'il y a eu une augmentation de capital nécessaire pour refinancer un peu la dette du club, parce que l'arrivée de Ronaldo coûte très 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 cher, et que pour le moment les partenariats commerciaux, même s'ils augmentent, ne parviennent pas à tout combler ces dépenses-là. Et juste pour revenir un instant sur les déclarations de Sarri, faut aussi parler du contexte. Tu t'as dit il revient dans son ancienne équipe, ce qui est vrai, mais c'est que c'est une vraie rivalité entre la Juve et Napoli. Imagine Simone Inzaghi dire hier à l'issue du derby, on n'a pas perdu, on a pris un point, bon, on n'a pas gagné, je veux dire, on a pris un point. Bon, c'est pas grave si on n'a pas gagné, ça me fait plaisir que ce soit contre la Roma, que la Roma ait réussi son derby. C'est pas possible. C'est pas logique, ça peut pas arriver ce genre de choses.
Mais écoute, c'est tout simple, c'est comme si, alors je prends un exemple comme ça un peu à la va-vite, c'est comme si Leonardo, si tu te souviens à l'époque, avait signé à l'Inter,
ouais,
en sort de l'Inter, après plus de 15 ans passés à Milan en tant que joueur, dirigeant, entraîneur, disait bon bah on a perdu le derby contre Milan, mais à la limite je préfère que ce soit eux parce que voilà, j'étais attaché à ce club-là. C'est la même chose.
Et donc juste pour revenir pour ces déclats, j'étais lamentablement coupé, t'étais en train de me parler de ce qui t'avait marqué, une équipe,
ouais, l'approche ouais, du match, voilà, connaissant la Juve, qu'elle rate son approche quand même d'un match comme ça, ouais, ça m'a assez surpris.
On passe au Dolce très rapidement, Guillaume, on va faire très rapide là, puisque on avait fait un tel bilan mi-saison qu'on n'a pas forcément énormément de choses à dire sur d'autres clubs. Toi, tu voulais commencer par l'Udinese, notamment puisque tu les as vus en direct à San Siro contre Milan, et un joueur en particulier que tu voulais souligner.
Oui, c'est pas l'Udinese en soi qui m'a enthousiasmé, même si je trouve que le travail de Gotti est très bon, mais c'est surtout la façon de Fofana. Alors, pour tout avouer, j'ai jamais été très fan de joueurs là que je trouvais très physique et pas forcément très très technique. Et pour l'avoir vu à San Siro, c'est vrai qu'il m'a assez impressionné. Alors, au-delà du, tu le sais aussi bien que moi, c'est qu'au stade, c'est toujours une vision différente, parce que tu vois quand même, t'as un champ d'action qui est beaucoup plus grand qu'à la télé. Et pour l'avoir suivi pendant plusieurs minutes, j'ai beaucoup aimé ses appels, sa gestion du ballon. Et techniquement parlant, je trouve qu'il a beaucoup progressé. Quand il a le ballon, il prend tout de suite le renseignement avant de le recevoir. Il mise plus uniquement sur des grandes courses vers l'avant. Il se contente aussi parfois de faire une première passe très intéressante. Comme tout à l'heure, on en parlait pour la Juve, il filtre beaucoup. Voilà, c'est vraiment un joueur qui m'impressionne. Et je n'en étais pas fan, mais c'est vrai qu'au fil du temps, je trouve qu'il progresse. Et on en a parlé beaucoup aussi par rapport au mercato. Et je pense que l'été prochain, si y a un club, alors peut-être pas la Juve qui est, après tu vas me dire, elle recherche peut-être des milieux, mais
non, voilà, le Napoli par exemple.
Voilà, le Napoli par exemple ou d'autres, ça pourrait être vraiment une bonne recrue parce que au-delà du physique qu'il a toujours eu, techniquement c'est un joueur très intéressant au milieu de terrain. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur du moment, un coup de cœur surprenant pour moi-même, mais c'est vrai, je dois avouer qu'il m'a beaucoup plu lors de Milan Udinese il y a une semaine.
On sait que la connexion Udinese et Naples marche très bien, Zielinski, Meret, Alan,
oui, c'est vrai,
ce serait pas forcément surprenant de le retrouver là. Pour ma part, j'ai un petit pas dire coup de cœur, mais sur l'Hellas Vérone et sur leurs supporters. Non, je déconne. sur leur mercato. Je plaisante bien sûr pour les supporters. Sur le mercato de l'été dernier, qu'ils ont très bien réussi avec très peu de moyens. C'est un club qui montait en Serie A. Bah, j'en ai parlé très souvent cette saison, mais Ramani, pour moi, je suis pas sûr de bien le prononcer parce que le double R, je sais pas comment ça se prononce en kosovar, mais Ramani, j'aime beaucoup. Il a d'ailleurs signé au Napoli, puis prêté dans la foulée. Il rejoindra le Napoli en juin. C'est un vrai pari qu'ils ont fait. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils ont beaucoup de défenseurs des pays de l'Est. Ils ont un Albanais, un Polonais, je crois, de mémoire, un Kosovar, donc ils sont pas mal de défenseurs des pays de l'Est. C'est un joueur qui a un très bon sens de l'anticipation. Ouais, c'est vraiment un joueur à suivre. Il y a Amrabat que j'aime beaucoup au milieu de terrain, qui est prêté par Bruges. Il y a Valerio Verré qui est prêté aussi, et Pessina qui est prêté par l'Atalanta. Verré, c'est par la Samp. Donc c'est trois joueurs prêtés, trois joueurs assez jeunes et qui rayonnent cette saison au milieu de terrain. Vraiment, pour moi, cette équipe, autant elle est assez ennuyeuse à voir jouer, parce que c'est pas une équipe hyper spectaculaire, autant elle a des joueurs, des vrais joueurs de ballon. Alors après, c'est le système qui fait qu'ils peuvent pas forcément toujours bien s'exprimer, mais ils ont des vrais joueurs de ballon qui sont intéressants. Et attention à Pessina, hein, c'est un joueur très intéressant, prêté par l'Atalanta. Encore un bon petit joueur qui vient de l'Atalanta, à voir si l'Atalanta le récupérera l'année prochaine. Mais comme ils ont déjà vendu Kulusevski à la Juve dans cette position de meneur de jeu avancé, il faudra voir ce qu'ils font de Pessina qui réalise une belle saison. Et puis le dernier, c'est Miguel Veloso, le capitaine de cette équipe, et qui, voilà, avec Amrabat et dans un milieu à deux, effectue un super travail, très technique, dicte le tempo, très calme aussi, fait les bonnes petites fautes au bon moment. Donc voilà, mettre en avant un peu quelques joueurs de l'Hellas qui m'ont beaucoup plu depuis le début de la saison et encore dernièrement, puisque j'ai vu le match hier contre Lecce. Dernier petit mot, Guillaume, sur l'Atalanta. Passer outre l'Atalanta.
Écoute, je viens de remarquer dans mon Dolce, alors j'ai un petit Dolce sur Balotelli, mais je le ferai le prochain coup parce que voilà, faudrait que j'en parle quand même de Balotelli et de sa saison un peu compliquée. Mais par contre, quelque chose de plus joyeux, oui, l'Atalanta, bah, une donnée quand même qui est assez. Ouais, j'ai peur qu'avec le temps on banalise les performances de l'Atalanta, mais marquer quand même 57 buts en 21 matchs, voilà, c'est la meilleure attaque d'Italie, évidemment. On est quand même sur un niveau assez exceptionnel. Ils en ont collé 7 au Torino à Turin, ce qui est pas anodin. Ils en ont collé 5 à Milan avant la trêve hivernale. Ils en ont collé 5 à Parme. Enfin, on parle quand même de quelque chose d'assez hallucinant. On est quand même en Serie A, hein, on n'est pas chez les amateurs. Enfin, voilà, le niveau de certains joueurs comme Ilicic, donc le Torino qui marque un but d'ailleurs sur un coup franc au milieu de terrain. Voilà, montre assez ce que peut représenter le travail de Gasperini, mais voilà, je veux pas banaliser l'Atalanta qui est en huitième de finale avec des champions contre Valence, hein, donc c'est possible. On est encore sur une saison assez exceptionnelle. Elle est toujours évidemment en lutte pour la quatrième place avec la Roma. Enfin voilà, j'avais peur qu'on banalise un peu les pertes de l'Atalanta, mais ça reste quand même du très haut niveau. Samedi, évidemment, avec ce score fleuve, j'ai vu qu'on en avait encore parlé un peu partout, même en France, ça avait fait quand même pas mal écho. Mais voilà, on est sur quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a beaucoup de joueurs encore qui se révèlent cette année. Voilà, c'est une superbe réalité de la Serie A. Et comme je l'avais dit lors d'un podcast, c'est une valeur sûre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'Inter, la Juve, la Lazio, la Roma et d'autres. Hein. Il y a aussi l'Atalanta qui est toujours là, qui joue les premières places. Et quand elle colle 5 à Milan, alors c'est certes un Milan plus triste que ceux qu'on a connu auparavant, mais ça prouve aussi la dimension qu'a pris l'Atalanta. Donc voilà, un petit coup de chapeau quand même. Alors c'est facile, hein, mais c'est quand
nécessaire.
Même mérité. Ouais. 57 buts en 21 matchs, je sais pas si on se rend compte, c'est quand même un niveau assez hallucinant.
Tiens, quelques stats pour compléter, du coup, 57 buts en 21 journées, 406 tirs effectués, record en Serie A, 41% cadré, c'est énorme, même chose, hein, c'est le club qui cadre le plus en Serie A, 12 buteurs différents depuis le début de la saison, 19 matchs avec au moins un but marqué, 9 matchs sur 21 avec au moins 3 buts marqués, ce qui est énorme, 4 matchs à 5 buts au moins marqué et 2 matchs à au moins 7 buts marqués depuis le début de la saison, et ça c'est juste en championnat. Voilà, c'est une équipe qui est formidable, qu'on vous conseille de regarder depuis le début du podcast en fait.
Ouais. Qu'on met si en vous voulez aller la voir aussi. Hein.
Voilà, c'est ça, et un vrai conseil de de suivre cette équipe autant à la télé que si vous voulez faire un petit peu de ground hopping du côté de Bergame. Voilà qui boucle cet épisode, Guillaume, ce 8e épisode du podcast Calcio EPP. Petit rappel des plateformes où on est disponible: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Stitcher, Magellan, Podcast Addict, tout ce que vous voulez. On est également sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, venez nous voir. On vous réserve quelques petites choses prochainement dont on parlera en temps et en heure. Merci à vous pour votre fidélité. Comme on l'a expliqué en préambule, le dernier podcast bilan a fait un record d'écoute assez monumental pour nous. Donc on est absolument ravis. On a aussi des très bons retours sur les notes d'Apple Podcast. N'hésitez pas à ajouter la vôtre. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode très rapidement. On vous donne pas encore de date, mais on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Calcio EPP. Merci à toutes et à tous. Merci Guillaume et à très vite.
Salut à tous.